Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h56 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner tous les matins. Bonjour à mes deux acolytes, l'économiste Emmanuel Lechypre,
l'historien. Bonjour à tous.
Et bonjour à tous.
Les Français d'un côté, la France de l'autre, mesdames, messieurs. Allez, bonjour à tous les deux. À la une ce matin, on va parler du climat et des Français. Les Français qui estiment que les politiques n'ont pas de propositions concrètes et crédibles. On va aussi beaucoup parler d'économie ce matin, mais l'économie qui vous touche directement. D'abord avec cette question, faut-il davantage taxer l'héritage? Écoutez Mathilde Panot, c'était à mon micro hier matin.
Ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent et ce sont en immense majorité des super héritiers. Et nous, nous l'avons dit, à partir de 12 millions d'euros, nous prendrons tout.
À partir de 12 millions d'euros, nous prendrons tout, tout. Ou alors taxer les successions dès le premier euro, ça c'est ce que réclame la CFDT. Dans 10 minutes, on débat de cette question des taxes sur les héritages. Un économiste sera avec nous en direct. Son parti pris, c'est qu'il faut taxer l'héritage parce que c'est indispensable vu l'état de nos finances publiques. Manu, vous en pensez quoi ?
Ben, c'est un choix philosophique. En gros, est-ce qu'on permet aux gens de transmettre le patrimoine à leurs enfants ou bien est-ce qu'on remet les compteurs à zéro à chaque génération ? Sauf que le vrai danger, c'est de fragiliser les entreprises si on ne permet pas de les transmettre.
Ben, moi, je pense que c'est un choix politique. Hein. Taxer les héritages, c'est de toute façon la seule façon pour réduire les inégalités. Donc, il n'y a pas le choix.
Et pour, effectivement, remettre en quelque sorte une fluidité dans la machine, je vous attends aussi, évidemment, au 32-16 pour en débattre avec nous. À 7h40, on va parler de vous, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME. Les défaillances d'entreprises s'accentuent et les patrons se retrouvent de plus en plus au chômage. Une hausse de près de 7% par rapport à l'an dernier. C'est un chiffre qu'on vous dévoile sur RMC ce matin. On sera avec un chef d'entreprise. Vous entendrez son témoignage. Il a tout perdu. Et puis, le président de l'association GSC, ils aident à mieux protéger ces patrons qui n'ont pas forcément droit au chômage et qui se retrouvent souvent sans rien. Emmanuel, le profil de ces chefs d'entreprise au chômage est en train de changer, ça vous inquiète hein ?
Oui, parce que ce sont des chefs d'entreprise de plus en plus grandes, donc il va falloir défendre beaucoup plus fortement les intérêts des entreprises et on attend beaucoup du MEDEF qui commence son université d'été aujourd'hui. Va falloir qu'il soit un peu moins mou le MEDEF dans la défense des intérêts des chefs d'entreprise.
Et les PME, c'est un vieux modèle français très protecteur depuis plus d'un siècle. Si ça disparaît, c'est un saut dans l'inconnu pour le coup.
Héritage, milliardaire et dette. Bruno Le Maire sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Tout ça, ça fait réagir les chroniqueurs, ça fait aussi réagir tous ceux qui nous écoutent. Vous connaissez le chemin, le 32-16 et le WhatsApp 0612 424 424. N'oubliez pas qu'à 7h50, il y a toujours la proposition concrète de droite, de gauche, on alterne. Ce matin, ce sera Charles Consigny qui veut remettre l'école à l'endroit. Vous entendrez. Voilà, vous savez tout. 6h59, dans un instant, le journal. Mais d'abord, la météo. Bonjour Géraldine.
Bonjour Apolline.
Et c'est une journée calme avant les orages ce soir.
Exactement. Et résultat, on a déjà 12 départements qui sont en vigilance orange. Il y a le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, l'Indre-et-Loire, Loire-et-Cher et Ille-et-Vilaine. Alors pourtant, oui, c'est calme ce matin. On a surtout un ciel qui va être voilé. Mais dès cet après-midi, on va commencer à avoir des averses orageuses arrivées par le nord-ouest. Et c'est vraiment à partir de 18h qu'on risque d'avoir des orages très violents avec des rafales de vent jusqu'à 100 km/h, des grêlons jusqu'à 5 cm. Et puis de grosses intensités pluvieuses en très peu de temps. En une heure, on peut avoir 30 mm de pluie. Le tout avec des températures en nette hausse, hein, c'est ça qui va donner le carburant aux orages. 35 degrés à Biarritz cet après-midi, 34 à Bordeaux, 31 à Lyon, 30 à Marseille, 29 à Paris, 26 pour Brest.
Il est 7h, excellent réveil à tous sur RMC et à la télé sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les patrons n'ont pas épargné par la crise. 180 chefs d'entreprise ont mis la clé sous la porte chaque jour au premier semestre de l'année. C'est 7% de plus que l'an dernier. Et c'est un chiffre que vous dévoile ce matin RMC. Le traumatisme des habitants de Poma dans l'Aude, deux jours après le passage d'une tornade dévastatrice. Et les États-Unis qui pleurent ce matin la mort de Dolly Parton, icône de la country, décédée hier à l'âge de 80 ans.
Le pessimisme des chefs d'entreprise.
Ils sont plus de 8 sur 10 à redouter les effets de la politique économique du prochain président de la République. Chiffre du MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France aujourd'hui et demain. À Paris, le patron de l'organisation patronale affiche d'ailleurs son inquiétude dans les colonnes du Parisien. 2027 sera le point de bascule, dit Patrick Martin. Il faut dire que les patrons sont en première ligne et pas épargnés par cette crise. 33 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi au premier semestre. C'est 7 points de plus que l'an dernier à la même période. période. Résultat d'une enquête de l'association GSC et la société Altares que vous révèlent RMC ce matin, et vous allez l'entendre. Les PME, jusque-là préservées, ne sont plus épargnées. Reportage dans l'Oise, Victor Girard.
Assis devant son ordinateur, Cyril regarde impuissant le dernier mail du tribunal de commerce qu'il a reçu.
Typiquement, c'est le genre de document qu'on reçoit quand on est en liquidation. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini.
Tout était pourtant bien parti pour cet entrepreneur qui lance en 2019 sa société spécialisée dans la réparation d'articles électroniques.
On a passé très rapidement la barre des 20 salariés, on était demandé partout. Il fallait donc se développer pour pouvoir pérenniser l'entreprise.
Cyril décide alors de lever des fonds.
Malheureusement, c'est ce qui a mené au crash. Une fois qu'il n'y a plus de liquidité, il n'était plus possible de payer les salaires et derrière de continuer.
Il dénonce la frilosité des investisseurs, la faute à un contexte économique difficile selon l'étude. Cyril fait donc partie des 694 dirigeants de petites et moyennes entreprises qui ont perdu leur emploi cette année. C'est 50% de plus en un an dans celles de plus de 50 salariés.
Comment vous l'avez vécu ?
Une descente aux enfers immédiate. Du jour au lendemain, je perds mon emploi, bien sûr, mais je perds ma raison de vivre en soi. Puisque si je crée une boîte, c'est pour changer quelque chose. J'avais investi tout ce que je pouvais, toutes mes économies. Sans ma famille, j'aurais terminé à la rue.
Malgré la liquidation, le père de famille reste déterminé. Il a déjà recréé une entreprise de moins de 5 salariés.
Un retour à Poma ce matin, village de l'Aude dévasté par une tornade lundi après-midi, blessant une cinquantaine de personnes. Les dégâts matériels sont importants. Sur les 500 maisons de la commune, plus de 300 ont été endommagées. L'heure est désormais au bilan, mais pour les victimes traumatisées comme Bruno, difficile d'envisager la suite.
J'ai eu tout le monde de mon assurance. Moi, on est relogé déjà pour une semaine pour conduire à chaque fois, quoi. De semaine en semaine. En attendant la décision de ça y est, bon, bah, on rebâtit votre maison, en somme, quoi. Voilà. Ça va pas être une mince affaire, hein. Tous les corps de métier vont y repasser, quoi, comme une maison neuve, hein. De toute façon, l'électricité, l'eau et compagnie, tout ça, quoi. Alors ça rassure évidemment énormément. Ça rassure beaucoup. Déjà, ça donne plus le moral, si je peux dire. Parce qu'on l'a pas trop, vous en doutez, mais peut-être que si vous me revoyez dans un an et demi, je serais plus heureux que maintenant, quoi.
Et 12 départements de l'Ouest seront placés en vigilance orange aux orages à partir de 18h. De la grêle et des rafales à plus de 100 km/h sont attendues. Conditions climatiques qui inquiètent après les canicules à répétition, la sécheresse ou encore les méga-feux. Plus de 6 Français sur 10 estiment que les partis politiques n'en font pas assez. Ils regrettent un manque de propositions crédibles. Chiffre du think tank, Destin commun que vous révèle RMC.
Il est 7h04 sur RMC. Une enquête ouverte à Marseille.
Les conséquences d'une entre Sébastien Delogu et des policiers, selon nos confrères de BFM TV. Le député insoumis aurait refusé l'accès à son immeuble à 3 membres des forces de l'ordre en intervention pour le vol d'une montre de luxe. Le ton est rapidement monté. Précision, Maxime Clieruza, service police-justice RMC.
Tu m'as mis sa main sur le torse, tu me dis tu pues de la gueule.
Cette scène se déroule dans le hall d'immeuble de Sébastien Delogu. Selon les 3 policiers présents, le député leur a interdit l'accès avant de les insulter et de déclarer la République, c'est moi. Mais dans cette vidéo d'une trentaine de secondes que s'est procurée BFM TV et qui ne montre pas l'intégralité de l'altercation, on entend une insulte proférée par le policier.
C'est moi ici, poussez-vous ici, c'est moi. Vous n'avez pas montré de plaque, je ne sais pas qui vous aide, il n'y a pas de souci.
Dans un courrier à la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, le député insoumis détaille sa version des faits. Selon lui, le policier l'aurait insulté de merde et lui aurait dit qu'il puait de la gueule et qu'il était normal, que tout le monde le déteste. Une plainte a été déposée par Sébastien Delogu pour violence volontaire. Les 3 fonctionnaires, eux, ont chacun déposé plainte pour outrage sur personne, dépositaire de l'autorité publique.
Un cycliste grièvement blessé à Paris à l'origine du drame, une altercation avec un automobiliste. Ça s'est passé hier après-midi dans le 9e arrondissement de la capitale. Le conducteur du véhicule en fuite est soupçonné d'avoir poignardé la victime. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, dénonce un acte odieux. Et puis, 10 jours après le piratage massif du service des impôts, plusieurs centaines de victimes se sont jointes à une action collective contre l'État afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
Et puis, les drapeaux en berne aux États-Unis pour une semaine.
C'est l'annonce de Donald Trump en réaction à la mort de Dolly Parton. Icône de la musique country, elle est décédée à 80 ans après avoir mené un bref combat contre le cancer. Émotion très vive de l'autre côté de l'Atlantique, Romaoug, où les hommages sont nombreux ce matin.
Oui, ils viennent de toutes les franges de l'Amérique. Les anciens présidents George W. Bush, Joe Biden, Bill Clinton, les plus grandes pop stars, Taylor Swift, Beyoncé, les rock stars aussi, comme Mick Jagger ou Paul McCartney. Même le rappeur Eminem salue une superstar dans tous les sens du du terme, écrit-il. Et puis, sur les réseaux sociaux, comme dans tous les médias américains, il y a ces milliers d'anonymes qui font part de leur tristesse, partagent des souvenirs liés à ces chansons. Bref, c'est littéralement toute l'Amérique qui pleure ce matin. Dolly Parton, dont l'étoile sur Hollywood Boulevard est déjà recouverte de dizaines de fleurs et de bougies. Preuve de l'immense vague d'émotions qui traverse les États-Unis. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays pour une semaine et l'Empire State Building s'est teinté de rose hier soir, la couleur préférée de la star country dont vous connaissez au moins un titre. I Will Always Love You, qu'elle avait été la première à chanter en 1974, 18 ans avant que Whitney Houston en fasse un succès planétaire.
Les précisions ce matin de Romain Hougues. L'Olympique Lyonnais en quête d'une qualification en Ligue des Champions ce soir à 21h sur RMC, match retour des barrages face au Fenerbahçe, un but partout à l'aller. Ousmane Dembélé, il ne fera pas le déplacement à Lille vendredi en Ligue 1 avec le PSG. Il est mis en repos par son club et puis il continue d'écœurer la concurrence comme sur le Tour de France. Tadej Pogacar a déjà écrasé la Vuelta, le Slovène remporte en solitaire la 4e étape en Andorre et conforte sa place de leader. Kevin Morand.
Oui, Tadej Pogacar avait des fourmis dans les jambes après avoir été privé lundi par l'orage de grêle d'un succès probable à Font-Romeu. Il s'est donc envolé hier à 50 km de l'arrivée en Andorre et personne n'a été capable de le suivre. Le Slovène est certes un habitué des raids victorieux en solitaire, mais celui-ci est son plus long sur un grand tour et Pogacar, qui portait déjà le maillot rouge depuis sa victoire sur la première étape, pourrait bien le garder maintenant pendant 3 semaines. L'écart est déjà conséquent au classement général avec 3 minutes 21 d'avance sur son dauphin Primoz Roglic. Après seulement 4 jours de course, vainqueur de son 5e maillot jaune en juillet, Tadej Pogacar est bien parti pour atteindre en Espagne son objectif de remporter le seul grand tour qui manque encore à son palmarès et devenir le 9e coureur de l'histoire à compléter cette trilogie.
Et puis mission réussie pour Sophie Adnaud. Après plus de 6 heures hors de la Station Spatiale Internationale, l'astronaute française et l'un de ses compagnons de vol ont terminé l'installation d'une antenne défectueuse lors d'une deuxième sortie extravéhiculaire hier après-midi.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Et cette question à la une ce matin, faut-il davantage taxer les successions? Le débat est relancé. Il a été relancé à mon micro hier matin par Mathilde Panot. À partir de 12 millions, on prend tout. Voilà ce que dit LFI. Et puis de l'autre, la CFDT qui, elle, voudrait taxer dès le premier euro reçu. Boris Julien Vozel est économiste et il est en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de gauche, peut-on dire. Vous travaillez depuis longtemps sur la question de l'héritage et vous estimez qu'il faut, oui, taxer davantage les plus grosses successions, que ce serait sans douleur, dites-vous, pour 99% des Français, mais qu'il faut le faire clairement aussi pour réinjecter de l'argent dans l'économie. Arthur, vous estimez que c'est une manière aussi de réduire les inégalités?
Alors, est-ce qu'il faut aller aussi loin que ce que le veut LFI? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est clairement un foyer pour réduire les inégalités, ça c'est clair.
On en parle dans un instant. Manu Le Chypre est évidemment avec nous et vous tous au 32-16. Venez les interpeller et débattre avec nous. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC, sur RMC Story. Écoutez, d'ailleurs, ça s'est passé à mon micro hier matin.
Ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent et ce sont en immense majorité des super héritiers. Et nous l'avons dit, à partir de 12 millions d'euros, nous prendrons tout.
À partir de 12 millions d'euros, nous prendrons tout. Autre idée déposée hier dans les propositions, c'est celle de la CFDT qui veut taxer les héritages dès le premier euro. En bref, le débat sur la taxation des successions s'invite en cette rentrée. Bonjour Boris Julien Vozel. Vous êtes économiste, vous avez co-signé en 2024 un rapport sur la transmission. C'était pour la Fondation Jean Jaurès. Vous plaidez pour qu'on taxe davantage les gros héritages. À partir de quel niveau, comment, quand?
Alors, toutes ces propositions ont le mérite de remettre au cœur du débat cette question qui est assez déterminante pour la société française. Le rapport qu'on a effectivement publié il y a un peu moins de 2 ans part d'un constat simple, c'est que la France est en train de redevenir une société d'héritiers, dans laquelle l'héritage qu'on reçoit ou non détermine notre position sociale et le patrimoine qu'on va pouvoir se former soi-même. On est à l'orée du plus grand transfert de richesse de notre histoire. Parce que la génération du baby-boom va disparaître dans les prochaines années. Donc c'est un effet démographique. Et va transmettre 9000 milliards d'euros sur une quinzaine d'années. Donc c'est chaque année à peu près 600 milliards d'euros, soit 20% de notre PIB. Donc c'est vraiment un phénomène macroéconomique massif. Considérable, exactement.
Aujourd'hui, si on va pas... quand même rappeler les choses. Aujourd'hui, jusqu'à 100 000 euros, il n'y a pas de taxe. Hein, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous redire de quoi on parle et d'où on part en quelque sorte?
Exactement, vous pointez bien le sujet, c'est qu'aujourd'hui 87% des transmissions sont sans taxe sur l'héritage. Donc en réalité, on parle uniquement de 13% des transmissions qui sont aujourd'hui taxées, mais qui sont finalement assez peu taxées. Parce que chaque année, en moyenne, le taux moyen de taxation est d'à peu près 5-6%. Donc c'est très faible. Et donc nous, notre préconisation, c'est d'augmenter un peu cette taxation sur ce qu'on appelle le top 1%. Donc c'est vraiment les très hauts patrimoines de plusieurs millions d'euros qui aujourd'hui bénéficient d'énormément de... Le top 1%, c'est à peu près 4,2 millions d'euros. En tout cas, c'était le chiffre donné par le Conseil d'analyse économique il y a quelques années. C'est sûrement un peu plus aujourd'hui. Mais on est dans ces eaux-là. Alors. Et c'est des patrimoines qui ont énormément de dispositifs d'exonération et qui sont pas tous justifiés aujourd'hui.
Alors, Boris Julien Vauzel, si j'ai bien lu vos travaux, en gros, vos propositions permettraient de récupérer 20 à 25 milliards d'impôts supplémentaires par an, mais le point le plus sensible, c'est qu'en fait, vous attaquez quand même, à travers la transmission de ces gros patrimoines, au sujet de la transmission des entreprises, avec au cœur le fameux pacte Dutreil qui permet finalement d'exonérer les héritiers des successions d'entreprises, et en gros, on a l'impression que le deal, c'est est-ce qu'on récupère 20 à 25 milliards d'euros en plus ou est-ce qu'on prend le risque finalement que des entreprises soient perdues pour la France parce que des héritiers vont perdre le contrôle de leurs entreprises qui iront peut-être à l'étranger ou ailleurs.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Boris Julien Vauzel?
Alors, dans les 20 à 25 milliards effectivement de recettes supplémentaires, le pacte Dutreil est en réalité assez minoritaire. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de supprimer le pacte Dutreil. En revanche, c'est de le rationaliser. Il y a eu un travail important qui a été mené par des chercheurs et par la Cour des comptes ces dernières années. Et on connaît désormais le coût du pacte Dutreil, qui est de 5,5 milliards d'exonération sur la transmission d'entreprises familiales. Donc, ces 5,5 milliards, c'est ce qu'on accepte collectivement de subventionner d'une certaine manière pour faciliter les transmissions et protéger l'outil productif.
Je voudrais quand même vous interroger sur les deux propositions qui ont été mises dans le débat public hier. À partir de 12 millions, on prend tout, ça c'est côté LFI, et la CFDT qui, elle, dit eh ben ça suffit, cette première phase des 100 000 euros qui ne sont pas touchés, en gros les plus petites successions, et ils disent, il faut, c'est Marie-Lise Léon qui l'exprime hier, il faut taxer dès le premier euro. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux propositions-là?
Nous, vous l'aurez compris, la proposition est un peu différente sur deux points. C'est-à-dire que,
premièrement,
il y a un enjeu de constitutionnalité, pour être très clair. On l'a déjà vu par le passé sur des sujets un peu différents, sur des taxes un peu différentes. On peut pas prendre 100%
à certaines
personnes.
Donc ça veut dire que la proposition de LFI, elle est anticonstitutionnelle.
Alors je suis pas juriste constitutionnel, mais très vraisemblablement, si on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on peut le penser.
Et taxé à partir du premier euro.
Mais là aussi, nous, ce qui nous semble important, c'est que les ménages modestes qui transmettent un petit patrimoine, une maison principale, quelques milliers d'euros sur un compte en banque en fin de vie, ne soient pas taxés. Et encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui. 87% des gens ne paient pas d'impôts sur les successions. Et à notre avis, il faut que ça reste le cas. En revanche, encore une fois, les très gros héritages pourraient contribuer davantage.
Je vais lui donner la parole, Christophe. 53 ans, vous vivez en Haute-Marne, vous êtes enseignant. Est-ce que vous estimez que ce débat sur le fait de taxer davantage les héritages, il est nécessaire?
Non, il n'est pas nécessaire. J'ai l'impression que depuis hier, c'est le concours Lépine de la taxe. Après, si la taxe avait été la solution, je pense qu'en France, on serait pas dans cet état. On aurait un train de vie bien supérieur à celui qu'on a actuellement. Moi, je peux noter quand même qu'il y a zéro développement économique qui est envisagé ou il n'y a rien de fait pour le futur. Voilà.
Rien de fait. On est plutôt dans une logique idéologique à vos yeux, Arthur.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant ce que vous dites, puisqu'en fait ça prouve que les Français, ils pensent que l'État c'est la personne qui utilise le plus mal l'argent en France. Et deuxième point, le dernier moment où il y a des gens qui n'avaient pas d'argent, qui en ont gagné beaucoup, c'était les 30 Glorieuses.
ça a été permis pas par l'héritage, mais par la croissance. Donc la question que moi je me pose personnellement, c'est est-ce qu'il vaut mieux taxer l'héritage, mais ça sera un grand saut dans l'inconnu parce que jusqu'ici ça n'a jamais vraiment fait ses preuves, mais je peux comprendre que ce soit nécessaire, ou est-ce qu'il vaut mieux diriger cet argent pour créer de la croissance, parce qu'après tout, la dernière fois que ça a fonctionné, c'était grâce à la croissance.
Arthur, il y a un truc qui est sûr, ouais. C'est qu'il y a un choix philosophique qu'on peut pas trancher. Est-ce que vous considérez qu'il est légitime de pouvoir transmettre votre patrimoine à vos enfants, ou bien est-ce que vous considérez que chaque génération doit mériter ce qu'elle gagne et que vous remettez les compteurs à zéro à chaque
En fait, c'est philosophique.
Qu'il y a un point, Apolline, sur lequel on peut être d'accord, c'est qu'il y a aujourd'hui un patrimoine qui dort, qui est inactif, puisqu'aujourd'hui, c'est à 50 ans qu'on hérite en moyenne. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'économie française gagnerait à ce que tout ce patrimoine soit transmis beaucoup plus tôt, beaucoup
plus vite.
Il faudrait dynamiser les transmissions.
Qu'il y ait une transmission,
bien sûr,
du vivant des gens beaucoup
bien
plus
sûr.
Fluide.
Sachant qu'on a un paradoxe terrible, hein, c'est qu'il y a que 13% des Français qui payent des droits de succession, et plus les Français sont modestes, moins ils veulent qu'on touche
aux droits de succession. Boris Julien Vozel.
L'enjeu, à mon sens, c'est de mettre ça en miroir de la taxation du travail et du fait qu'aujourd'hui, les salaires sont très bas en France, beaucoup trop bas. Et donc, nous, ce qu'on préconise...
En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on devient riche ?
De taxer un peu plus.
Comment est-ce qu'on réduit les inégalités tout au long de la vie ? Est-ce que c'est uniquement par l'héritage ? Et si c'est le cas, bah, effectivement, ça veut dire une société complètement bloquée et aussi plus d'espoir. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, dans ces cas-là, honnêtement, à quoi bon
bosser, oui.
Ou alors, on remet effectivement une possibilité de gagner de l'argent par soi-même et par le travail. Et dans ces cas-là, on sera peut-être très heureux de pouvoir le transmettre aux uns et aux autres. Merci beaucoup, Boris Julien Vozel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous avez co-signé ce rapport sur la transmission pour la Fondation Jean Jaurès. Merci aussi à Christophe. Comme Christophe, vous n'hésitez pas. Vous connaissez le chemin, le 32-16. Et puis, vous le savez désormais, Arthur et Emmanuel sont à mes côtés pour traverser cette matinale, pour vous interpeller, pour interpeller les invités et pour apporter aussi leur connaissance, la connaissance de la France, l'historien Arthur Chevalier, la connaissance des Français, Emmanuel Le Chypre, l'économiste, et vous tous au 32-16. Allez, il est 7h20 et justement, quelle meilleure transition pour parler de l'histoire. Arthur, dans un instant, comme chaque jour, on va remonter le temps avec vous. On va évidemment revenir sur cette tornade qui a dévasté un village dans l'Aude. C'est un phénomène rarissime, Arthur, mais ça a déjà existé.
Alors oui, parce que la France n'a connu que deux tornades ultra-violentes dans son histoire, et la plus meurtrière, c'était en Normandie. Il y a 181 ans, elle avait fait 75 morts et traumatisé toute une région.
Vous nous le racontez dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive. Ne bougez pas, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC, mais on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, deux jours après, le bilan de la tornade dans l'Aude est très lourd. Une cinquantaine de blessés, dont deux en urgence absolue, 300 maisons touchées, une centaine totalement détruites. Dans notre histoire récente, ce type de tornade est plutôt très très rare. Hein.
Ah oui, en France, on recense entre 40 et 50 tornades par an, mais de faible intensité. Pour ce qui concerne celle de Poma, on connaîtra donc l'intensité après une enquête de terrain, mais a priori, elle pourrait être classée dans la catégorie F3, ce qui est beaucoup, sachant que le maximum, c'est F5. Depuis 200 ans, la France n'a connu que deux tornades de type F5, donc le maximum.
Alors justement, vous vouliez revenir sur l'une de ces tornades qui a été cataclysmique.
Et même sur la plus dévastatrice de toutes, c'était en 1845, donc il y a 181 ans précise. Voilà ce qu'il s'est passé. Nous sommes le 19 août 1845, près de Rouen, en Normandie. Il est environ 13h, l'air est un peu lourd, mais a priori tout est normal, sauf que... Au loin, un immense cône se forme dans le ciel, c'est la tornade. Un tourbillon de 300 mètres de diamètre s'apprête à dévaler sur la région.
Personne n'a eu le temps de se mettre à l'abri ?
Non, évidemment, tout a été beaucoup trop vite. La tornade dévaste une zone industrielle du village de Montville. Trois usines de filature textile sont balayées en quelques minutes. Dans ces usines, des centaines d'ouvriers sont pris au piège. Certains sont carrément projetés à des centaines de mètres. D'autres sont immédiatement ensevelis sous les ruines. C'est la dévastation. On a même retrouvé des débris à plus de 30 kilomètres de là.
Et le bilan est lourd.
Apocalyptique, on dénombre 75 morts et plus de 130 blessés. La plupart étaient des ouvriers pris au piège sur leur lieu de travail, ce qui a bien sûr décuplé l'aspect dramatique de l'événement. On a même une mère de famille qui s'est jetée dans une rivière pour se noyer après avoir découvert le cadavre de ses filles. C'est la tornade la plus meurtrière de l'histoire de France.
En Normandie, c'est un vrai traumatisme.
Oui, à l'époque, évidemment, tous les journaux en ont parlé. Il y a un grand écrivain qui en a parlé dans sa correspondance. Cet écrivain, c'est Gustave Flaubert, parce qu'il était originaire de Normandie.
Et son père, le père de Flaubert, qui était médecin, s'était d'ailleurs rendu immédiatement sur les lieux du drame pour soigner les blessés. Et ce drame va aussi inspirer un des plus grands compositeurs de musique du 19e siècle. Il s'agit d'Hector Berlioz, puisque après un séjour à Montville, un an après la tornade, eh bien Berlioz va s'inspirer des récits de la catastrophe pour composer la Damnation de Faust, qui est un de ses morceaux les plus célèbres, que vous entendez. Un des morceaux les plus célèbres, pas les plus jolis.
Ah bah on imagine, évidemment, mais c'est assez inouï. Merci pour ce récit, Arthur Chevalier. À 8h10, tiens, on reviendra évidemment sur ce phénomène et cette tornade, mais plus globalement sur tout ce qui a touché la France cet été, les canicules, les méga-feux, bien sûr, et la sécheresse qui s'installe. François Gémen, le biologiste,
climatologue.
Le spécialiste du climat, le climatologue, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci Manu, sera avec nous en direct à 8h10. C'est l'heure d'Arnaud Demange, 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud, face-à-face, tout à l'heure, je reçois Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie.
Oui, puisqu'on a besoin d'éclairage sur la situation économique catastrophique de la France, donc c'est pour ça que vous allez l'interroger. Bonjour Bruno Le Maire. Alors, t'es fier de toi?
Désolé.
Ouais. Alors, Bruno Le Maire, vous avez entendu la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Il souhaite carrément annuler la dette. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bon? On peut faire ça, toi, si j'avais su. Moi, je me suis fait suer à structurer des budgets et tout, des colonnes. Si j'avais su qu'il y avait un bouton annuler la dette, pour des bouquins de cul, je t'en aurais écrit 12 par an.
Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs annuler la dette, cher Manu Le Chip? Le banquier d'affaires Mathieu Pigas estime que oui, c'est possible. Et donc Pigas, il vient de prendre entre 10 et 20 millions pour restructurer la dette du Venezuela. Ils ont dû être contents là-bas. Non seulement elle n'est pas annulée, mais elle est plus grosse de 10 ou 20 millions maintenant, leur dette. Alors, annuler la dette à l'échelle d'un pays, je sais pas. Par contre, à l'échelle individuelle, je peux vous dire que ça marche pas. Moi, j'ai appelé ma banque, j'ai dit... On peut annuler, ils m'ont dit non. J'ai rappelé en imitant Mélenchon, ils m'ont dit non, mais en criant. Alors je propose que tous, on fasse une espèce de groupe WhatsApp, c'est-à-dire on met toutes nos dettes ensemble et là on crée un pays, le Rougistan. Et là, je pense que c'est annulable. Là,
ça devient annulable. Mais vous y êtes.
Plein dedans. Bruno Le Maire sort un petit livre de 60 pages,
Un manifeste pour une autre France. En fait, comme on a dépensé tous les sous de l'ancienne France, je propose qu'on en fabrique carrément une nouvelle. C'est un manifeste qui dénonce tous les nuls qu'on a eu aux finances depuis 40 ans.
Bref, il donne des conseils économiques aux candidats pour 2027. C'est un peu comme si Pierre Palmade ouvrait une auto-école, quoi. Arthur Chevalier, il me disait même, c'est comme si Napoléon, à la bataille de Iéna, il avait ordonné au maréchal Suchet de pas sécuriser le Landgrafenberg en marche sur la tête, quoi. Bon, moi non plus, j'avais pas la ref, Apolline. Hein, mais Arthur, ça le faisait vachement marrer. Enfin, mais c'est hilarant.
C'est un humour de niche. Faut quand même le dire.
Qui va-t-il soutenir Bruno Le Maire pour 2027? Alors, il a appelé Bruno Retailleau.
Allô, Bruno? C'est Bruno. C'est fou, on a déjà tellement de points communs. Dis-moi, tu veux que je te soutienne?
Non.
Ah bon? Bon, j'appelle Edouard Philippe. Allô, Edouard? C'est Bruno. Dis si tu veux, je peux te soutenir.
Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué.
Bon, c'est pas gagné, en tout cas. On y verra plus clair à 8h30.
Exactement.
On compte sur vous, Apolline.
Un rendez-vous à 8h30 avec Bruno Le Maire et rendez-vous avec Arnaud Demange. En attendant, ce sera à 8h15. À tout à l'heure. Mais pour l'heure, il est 7h28 et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo et le journal de 7h30. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. À Poma, des maisons détruites et des vies bouleversées après le passage de la tornade. Une femme enceinte est restée bloquée plus d'une heure sous les décombres avant d'être extraite grâce à l'intervention de son compagnon. À Paris, un cycliste poignardé par un automobiliste après un différend sur la route. Son pronostic vital est engagé. Et eux veulent obtenir réparation. Un millier de victimes du piratage du fisc se joignent à une action collective contre l'État.
Une cinquantaine de blessés et des centaines de maisons endommagées.
Le lourd bilan à Poma dans l'Aude après le passage de la tornade lundi après-midi. Les secouristes s'affairent encore pour bâcher les habitations endommagées et sécuriser les zones à risque. Je vous le disais, parmi les blessés, il y a une femme enceinte ensevelie sous les décombres de sa maison. Notre envoyée spéciale à Poma, Anna Jojar, a rencontré son compagnon qui lui est venu en aide.
Alexis était au téléphone avec sa compagne enceinte de 6 mois quand la tornade est arrivée sur Poma.
Elle m'a dit il y a une tornade en hurlant et le téléphone s'est coupé et j'ai entendu un gros boom. Il y en a avant ici, j'ai vu ça là, cette maison, avec plus rien. Mes beaux-parents qui étaient debout, les deux chiens qui étaient là et ma femme, impossible de la trouver.
Après quelques minutes, il la découvre coincée sous les décombres.
En fait là c'est le toit et le toit est tombé comme ça. C'était cette plaque là qui était sur elle. Et on voyait juste sa touffe de cheveux entre deux poutres de ciment et un bloc au-dessus. Elle hurlait, il y avait des « je t'aime », il y a des « je vais mourir, j'ai plus d'oxygène, le bébé il est plus là, je le sens pas, je sais pas ce qui se passe ».
Les pompiers ont mis à peu près une heure à l'extraire de ces blocs de béton. Elle a ensuite été examinée au CHU de Carcassonne.
Ils ont remarqué qu'il y avait rien. Le bébé était en très bonne santé. Elle a le sentir avec des égratignures sur tout le corps, des énormes hématomes sur le crâne et elle a perdu la sensibilité de la jambe droite.
Des examens complémentaires vont être réalisés. Alexis confie être encore hanté par ces images et ses cris.
Une nouvelle illustration des violences entre automobilistes et cyclistes. Un homme circulant à vélo a été poignardé par un homme au volant de sa voiture dans le 9e arrondissement de Paris hier après-midi. Romain Houg, les faits ont eu lieu donc après un différend routier.
Oui, à deux pas de l'église de la Madeleine, tout près de là où il y a 2 ans déjà, un cycliste avait perdu la vie après une altercation avec un automobiliste qui lui avait roulé dessus. Selon le journal Le Parisien, il est environ 13h30 hier quand une altercation éclate entre le cycliste et un automobiliste sans que l'on sache précisément encore pourquoi. Le chauffeur veut alors quitter les lieux, mais le cycliste l'en empêche. C'est à cet instant que la situation dégénère. Le chauffeur sort un couteau et porte un coup au cycliste, le blessant gravement avant de prendre la fuite. Il est à cette heure toujours activement recherché. La victime a quant à elle été transportée d'urgence à l'hôpital avec son pronostic vital engagé. Ces actes de violence envers les cyclistes sont inadmissibles et se produisent encore trop souvent, dénonce sur X le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Une enquête a été ouverte, les caméras de vidéo surveillance ont filmé la scène, indique une source policière et devrait permettre d'éclaircir les circonstances de ce drame. Et
Romain Houg pour RMC. Près d'un millier de victimes se joignent à une action collective contre l'État après le piratage du fisc, une cyberattaque survenue cet été qui a permis de dérober les données personnelles de 678 000 particuliers et entreprises. Avec cette action collective, les victimes espèrent obtenir une réparation pour les préjudices subis. Mathias Tesson et Inès Zegloul.
Il a été prévenu il y a une semaine par un mail de l'administration fiscale.
Mon identifiant fiscal, mon état civil.
La liste des données dérobées à Stéphane est longue, interminable.
Toutes mes coordonnées, hein, postales, téléphoniques, électroniques, mon nombre de personnes à charge, mon nombre de parts.
Sa principale crainte, que l'on souscrive un crédit à son insu. Alors en participant à cette action collective, il entend rappeler l'État à ses obligations de sécurité numérique.
Le but, c'est d'abord de faire reconnaître la faille, de faire en sorte que notre État mette en place les bons outils pour protéger des données individuelles.
C'est aussi un préjudice moral, de l'anxiété, s'exclame Jérémy Roche. C'est lui, l'avocat à la tête de la démarche, d'autant que les menaces sont multiples, rappelle-t-il.
Les arnaques existantes avec les faux banquiers peuvent être améliorées. On peut se retrouver avec des faux avocats, des faux notaires. On peut se retrouver avec des gens qui ont de la crypto-monnaie qui se retrouvent en fait, dans ces fuites-là. Il suffit de vérifier, de voir la nouvelle adresse et de venir vous chercher chez vous. Ce sont des possibilités et la plupart des préjudices matériels ne sont même pas matérialisés à ce jour.
Et pour ce recours collectif, l'avocat espère bien rassembler un millier de participants.
La préparation à la rentrée scolaire ralentit dans certains établissements après la cyberattaque subie par le ministère de l'Éducation nationale. Une pagaille logistique, affirment les chefs d'établissement, car ils n'ont pas d'accès à l'intranet. Lors de sa conférence de presse sur la rentrée hier, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a confirmé que ces problèmes seraient réglés rapidement. Le cancer du sein d'une hôtesse de l'air reconnue comme maladie professionnelle. C'est une première en France. L'annonce a été faite hier, mais la décision du tribunal judiciaire de Bayonne date de juillet dernier. Philippine Boulet, après 2 ans et demi de combat judiciaire, c'est donc une victoire pour Sophie Léno qui a travaillé pendant 30 ans chez Air France.
D'abord comme hôtesse de l'air, puis chef de cabine. Plus de 12 000 heures de vol à son actif, dont la moitié de nuit. Quotidiennement, il a fallu travailler à très haute altitude, s'exposer au rayonnement cosmique et au tabagisme passif. Fumer était autorisé dans les avions Air France jusqu'en 2000. Ce sont ces éléments que le tribunal judiciaire de Bayonne a retenus pour reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de Sophie. Le cancer du sein ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Cette décision va donc faire jurisprudence et servir de modèle pour les procès futur, se félicite son avocate. Une victoire aussi pour l'équipe cancer du sein de la CFDT. Reste maintenant à convaincre les autres personnes travaillant dans le secteur aérien que la reconnaissance est possible. Selon le collectif, 30 à 40 demandes sont en cours pour des aides-soignantes et des infirmières.
Sébastien Lecornu attendu à Mayotte, le Premier ministre en déplacement de deux jours sur l'île de l'océan Indien. Objectif, tenter d'accélérer la reconstruction de l'archipel un an et demi après le passage dévastateur du cyclone Chido. Alors que le territoire fait encore face à des difficultés d'accès à l'eau et aux soins, plusieurs syndicats maorais ont par ailleurs appelé à des grèves et manifestations à l'occasion de la visite du chef du gouvernement pour réclamer une hausse des salaires. En football, match crucial pour l'Olympique Lyonnais ce soir face au Fenerbahçe. L'OL joue sa qualification en Ligue des Champions lors de ce match barrage retour. Les Lyonnais ont obtenu le nul un partout au match aller.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30.
Oui, le pronostic de RMC, c'est le suivant. Le favori, c'est le 13, Jouvencel. L'outsider, c'est le 14, Larabiato.
C'était le journal de Grégoire Morelli. Il est 7h37, on part au 32-16. Il y a Delphine qui nous appelle de La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Comment ça va Delphine? Vous êtes notaire et vous vouliez réagir à la question des héritages. Je vous rappelle le contexte. On a d'un côté LFI qui dit à partir de 12 millions, on prend tout. On a de l'autre côté la CFDT qui dit dès le premier euro, il faut taxer les successions. Vous en pensez quoi et vous observez quoi, vous, comme notaire?
Dans mon métier, effectivement, les successions, c'est un élément essentiel. Les héritiers vivent très mal la taxation de l'héritage transmis par leurs parents. La plupart du temps, il faut savoir que on est en présence très souvent d'une résidence principale, des économies de toute une vie. La génération d'avant est très souvent économe, ils se sont souvent sacrifiés. Et les enfants vivent très mal le fait de savoir que les sacrifices de leurs parents en fait servent à remplir les poches de l'État.
Donc c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est comme ça qu'ils vous le disent.
C'est comme ça qu'ils le vivent, clairement. Il suffit d'avoir un seul enfant et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, il a raboté l'abattement fiscal de 150 000 pour le ramener à 100 000 euros,
oui.
Ce qui a rendu taxable énormément de successions. Vous vous rendez compte, 100 000 euros de seuil de non-taxation.
Comme un patrimoine maison, de toute une vie. Ouais.
Mais oui, la moindre maison est à 250 voire 300 000 euros dans les villes. Voire même beaucoup plus en général.
Vous avez parmi vos clients, j'allais dire, des gens qui doivent s'endetter pour garder la maison ou qui...
Bah, la plupart du temps, il faut vendre la maison. S'il n'y a pas de sous de côté, il faut vendre la maison, ça génère des pénalités. Et puis, par rapport aussi au gros patrimoine, je pense que c'est pas la bonne solution. Tout ce qui est les grosses successions, comme appellent ça les LFistes, c'est souvent représentatif de gens qui ont eu des entreprises, qui ont fait vivre des entreprises, qui ont généré de l'argent pour la France. Et
on vous sent choqué. Hein.
Si jamais on taxe ces entreprises, on risque de les faire mourir tout simplement. Donc, on perd encore du patrimoine.
Est-ce que la solution ça serait pas de laisser tranquille des héritages qui sont en fait pas excessifs quoi, et de s'intéresser aux très gros héritages en réalité. D'ailleurs en France c'est un peu ça le problème partout, c'est les gros revenus qu'il faut aller chercher. Est-ce que c'est pas ça la solution?
Alors, les très gros héritages, je suppose qu'ils payent déjà l'impôt sur la fortune. Et les très gros héritages, c'est souvent constitué d'entreprises. Si vous taxez encore plus ces entreprises, qu'elles sont taxées déjà sur leurs bénéfices, vous allez les faire mourir.
Vous êtes d'accord avec Manu.
Je vois que les économistes regardent le patrimoine qui est déjà constitué pour le taxer. L'enjeu des années à venir, c'est de générer des nouvelles fortunes.
Ce qui me frappe, et Delphine, vous apportez aussi votre pierre à l'édifice en tant que notaire, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai que c'est un sujet, et depuis qu'on a commencé à en parler hier, qui touche énormément de monde, et qui mélange en effet économie, philosophie, question même filiale. Merci beaucoup Delphine, notaire donc à La Roche-sur-Yon, qui nous appelait au 32-16. Il est 7h40, et RMC vous dévoile ce chiffre ce matin, et au fond, comme toujours, tout est lié. Plus de 7% par rapport à l'année dernière, c'est le nombre de chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi, et c'est un triste record. Plus de 33 000 patrons sont aujourd'hui au chômage. Bonjour Hervé Kermarek. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Vous allez nous le dire dans un instant. Vous présidez l'association GSC. C'est une association qui aide à mieux protéger les entrepreneurs en cas de perte d'emploi, parce que bien souvent, ils n'ont pas forcément prévu le coup et ils n'ont pas le droit au chômage. Et on va comprendre ce phénomène aussi avec un chef d'entreprise qui témoigne dans un instant. Il a mis la clé sous la porte de son entreprise, mais il a aussi tout perdu. Ça vous surprend pas, Manu, hein, ce chiffre?
Ah non, malheureusement, on voit que c'est très difficile pour les entreprises aujourd'hui. Et je crois que là, la guidance principale pour l'élection présidentielle de 2007, c'est aucune mesure qui fragilise les entreprises.
Et bien sûr, on attend vos témoignages au 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et sur RMC, sorry, face à la crise, les patrons souffrent aussi. Ils sont de plus en plus nombreux à perdre leur emploi, plus 7% depuis le début de l'année par rapport à 2025. C'est un chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin. Hervé Kermarek, vous êtes toujours avec nous. Vous présidez cette association GSC qui propose une assurance aux entrepreneurs en cas de perte d'emploi. Vous allez nous expliquer quel est le profil de ces entrepreneurs. Mais je voudrais commencer par donner la parole à Frédéric Mercier qui témoigne avec nous ce matin. Bonjour. L'an dernier, vous avez vous-même dû fermer votre entreprise, c'était une entreprise du bâtiment. En Bretagne, vous aviez 15 employés. Vous aviez pourtant lancé l'entreprise en 2007. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez été obligé de mettre la clé sous la porte? Vous m'entendez, Frédéric? Allô? Frédéric Mercier qui était en direct avec nous. On va y revenir dans un instant. Hervé Kermarek, qui aujourd'hui sont ces patrons qui perdent leur boulot?
Eh bien, vous l'avez dit, 33 000 femmes et hommes chefs d'entreprise, 220 par jour qui perdent leur boîte. Qui
220 par jour.
220 par jour, hein, depuis le premier semestre. C'est un triste chiffre, vous l'avez dit. On avait atteint un record en 2024, on l'a dépassé en 2025 et on est à nouveau sur le premier semestre à ce triste record. Ce sont donc des femmes et des chefs d'entreprise, femmes et hommes, qui perdent leur emploi. Généralement des entreprises de 3 salariés, moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, 46 ans en moyenne, donc ce ne sont pas des jeunes dirigeants. Et le fait marquant, qui est finalement le fait le plus inquiétant, c'est que les entreprises de plus de 20 salariés sont désormais ciblées, touchées malheureusement. Et encore plus sur les plus de 50 salariés, on a vu le nombre de défaillances d'entreprises doubler pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors que par nature, on pourrait considérer que ces entreprises
sont plus stables, un peu plus solides. Ont les reins plus solides. Frédéric Mercier, vous êtes à nouveau en direct avec nous. Je vous posais la question à l'instant. Que s'est-il passé? Comment est-ce que la situation a dégénéré et que vous en soyez à avoir dû mettre la clé sous la porte de votre entreprise?
Bonjour. Bah, écoutez, ça a été une mort lente, on va dire. L'après-Covid, avec les augmentations de matériaux, a été relativement fatale, difficile à vivre. Et derrière, le démarrage de la guerre en Ukraine, moi je travaillais énormément avec des particuliers, et le démarrage de la guerre en Ukraine a plombé toute l'activité.
Parce que les coûts ont augmenté, parce que ça suivait
non,
pas.
Non, la peur. Au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, on fait que moi je travaillais beaucoup dans de la rénovation et de la piscine, donc qui étaient des choses qui pouvaient attendre ou être reportées. Et beaucoup de clients ont décidé des reports d'investissement.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un engrenage. Vous avez accumulé quoi, des dettes?
Bah, à partir de 2023, oui, c'était des difficultés à faire face à nos règlements de factures, de matériaux, de sous-traitants, des décalages dans les règlements des charges.
Vous en êtes où aujourd'hui, Frédéric? C'est-à-dire un an après avoir dû fermer votre entreprise, je le rappelle, entreprise du bâtiment, il y avait 15 salariés. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous vivez de quoi?
Alors aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de retrouver du travail. Donc aujourd'hui, j'ai un statut salarié.
Okay.
Mais ce qui est difficile, c'est le moment de la fermeture, parce que ça se passe très très vite au tribunal de commerce. En 40 minutes, vous rentrez, vous êtes chef d'entreprise, vous sortez, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus rien, hein, plus aucun droit sur l'entreprise. Donc vous vous retrouvez sans rien et sans revenu.
Hein. Et sans revenu, vous aviez un chômage, une assurance, quelque chose?
Alors moi j'avais souscrit une assurance GSC justement, hein, j'avais repris l'entreprise en 2007 et je l'avais conservée tout au long des années. Et donc grâce à ça, au bout de deux mois, parce qu'il y a le temps que ça se mette en place, etc., j'ai pu retoucher 80% de mon salaire moyen de l'année d'avant.
Vous remonteriez une entreprise ou vous préférez désormais rester salarié?
Ah non, aujourd'hui je ne remonterai pas d'entreprise, c'est beaucoup trop risqué.
Vous ne reprendriez plus
Frédéric, vous êtes senti très seul ou est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'enferment tout seuls dans leurs difficultés et que s'ils avaient été accompagnés, ils auraient peut-être pu s'en sortir.
Frédéric.
Alors, avec le recul aujourd'hui, oui, c'est vrai, on est peu accompagné, mais on n'est pas toujours bien aidé et je pense que
je serais allé voir le tribunal de commerce un an avant, j'aurais pu sauver mon entreprise. Malheureusement, je suis allé le voir beaucoup trop tard. Et donc, c'était plus possible au moment où j'y suis allé. Et donc, ça s'est fermé très rapidement.
Hervé Kermarek, je voudrais justement qu'on puisse élargir au-delà de... Restez bien avec nous, hein, Frédéric, mais au-delà du profil de Frédéric, comment vous voyez la suite? C'est-à-dire que ce chiffre, il est très inquiétant, plus 7% par rapport à l'an dernier, qui était déjà pas terrible, hein, franchement. Comment vous voyez l'année qui s'ouvre avec aussi le débat économique, politique du moment?
Bon, le climat est très incertain. Évidemment, on est en période préélectorale et c'est jamais favorable aux affaires. Hein. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'aucun dirigeant ne bénéficie de droit au chômage. Et que... préparer son entrepreneuriat, son entreprise, c'est surtout préparer les situations qui sont les plus à risque. Et le premier risque, c'est de déposer le bilan. Ce chef d'entreprise a parfaitement dit, il avait préparé sa sortie éventuelle en gardant une garantie de chômage, cette GSC. Et il faut encourager les dirigeants à souscrire le plus possible cette garantie parce que le risque, il existe, il est démontré et il est de plus en plus important.
Merci beaucoup, merci pour votre témoignage Frédéric Mercier et ces chiffres donc, que vous nous dévoilez ce matin. Hervé Kermarek, vous êtes président de cette association GSC qui propose l'assurance aux entrepreneurs en cas de perte d'emploi. N'hésitez pas, hein, comme Frédéric, vous pouvez nous appeler au 3216 aussi pour témoigner. Il est 7h50 comme chaque matin, la proposition de droite et de gauche, on alterne. Dans un instant, c'est la droite, Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
C'est un peu la foire aux idées à quelques jours de la rentrée sur l'éducation. Vous voulez remettre l'école à l'endroit?
Je veux en tout cas des élèves épanouis qui apprennent dans de bonnes conditions et je pense pour cela qu'on peut s'inspirer un peu de nos amis américains et faire un peu plus de sport,
Charles.
Et assommer un peu moins les élèves.
Allez, on en parle dans un instant. Venez débattre avec nous de ces propositions de droite et de gauche. C'est chaque matin à 7h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la proposition ce matin, c'est la droite. Mais avant ça, le bonus, Mathieu, l'album culte d'Amy Winehouse qui fête ses 20 ans.
Déjà 20 ans, oui, pour le deuxième album de la chanteuse anglaise morte à 27 ans de ses excès. Back to Black sortait au mois d'octobre 2006, album de la consécration d'Amy Winehouse. 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 5 Grammy Awards entre autres, et des tubes qu'on entend encore aujourd'hui à la radio, Rehab, You Know I'm No Good qu'on entend, ou encore le titre qui a donné son nom à l'album, Back to Black. L'album continue de très bien se vendre, plus de 46 000 exemplaires écoulés depuis le début de l'année 2026, 20 ans après. Alors pour cet anniversaire, le disque va ressortir avec une édition spéciale, plusieurs morceaux inédits, deux faces B, un concert enregistré en 2007, des photos inédites. Plusieurs éditions de vinyle collector sont prévues aussi, bien sûr. Notez la date, réédition de Back to Black pour les 20 ans, ce sera le 23 octobre prochain.
RMC, Apolline Matin.
Proposition de gauche, proposition de droite.
Chaque jour, une proposition très concrète et politique. Le lundi et le mercredi, c'est la droite. Charles Consigny, bonjour Charles.
Bonjour.
Ce matin, vous vous attaquez à l'école. On a vu que Édouard Philippe, Gabriel Attal, ils vont de leur proposition à une semaine de la rentrée. Les uns disent qu'il faut augmenter les salaires des profs, les autres disent qu'il faut fermer certains établissements. Vous voulez qu'on s'intéresse aux élèves?
Absolument. Alors, je pense qu'il faut augmenter les profs, moi aussi. Hein. Je constate qu'ils sont pas très bien payés en France. En général, en moyenne, autour de 2000 euros bruts. C'est quand même pas grand-chose et pas assez. Donc, moi, je serais très favorable à augmenter les salaires des profs. En revanche, je pense que l'essentiel, ça doit être les élèves et qu'il faut arrêter de faire le collège et le lycée pour les profs et qu'il faut un peu penser aux élèves. Beaucoup de professeurs expliquent que leurs élèves sont assommés l'après-midi en cours, que leur administrer 30, parfois 32 heures de cours par semaine, c'est trop, surtout pour leur âge, etc. Et donc, moi, je pense que, quitte à faire des réformes, ne faisons pas des ajustements, faisons une révolution. Je pense pour ça que s'inspirer du modèle américain en faisant des cours le matin et du sport et d'autres activités plus culturelles l'après-midi, ça nous ferait pas de mal.
Et vous me faites évidemment très plaisir. J'ai souvent parlé ici de mon expérience. Ils vont tous se moquer de moi en disant que je rappelle que j'étais correspondante aux États-Unis, mais ça a été des années heureuses. Et effectivement, avec des enfants à l'école qui bossaient jusqu'à 15h, à partir de 15h, c'était sport ou autres activités. Et c'était tous les jours, du lundi au vendredi, remettre les choses dans le bon endroit. J'ai quand même l'impression que le rythme scolaire, tous ces trucs-là, on nous en parle depuis des années. Ça suffisait pas, Sacha ?
On en parle parce qu'on ne fait pas de vraies réformes. Parce qu'à chaque fois, on change de ministre, effectivement, tous les quatre matins, pour aller dans des orientations très différentes. Les syndicats, je pense, bloquent beaucoup les choses. Bon, moi, je pense qu'on est à l'heure des révolutions en France. Et donc, je pense que on doit le faire, y compris en dépensant, pour le coup, c'est le libéral qui le dit, en dépensant de l'argent public pour créer, aménager les infrastructures nécessaires à ça. Je suis désolé. Vous voyez, le jeune petit français que je suis, quand il regardait les séries américaines avec ces jeunes du même âge dans des campus incroyables,
avec
à faire du
casier,
sport. J'avais l'impression d'être en RDA qui regarde ce qui se passe
oui,
en RFA. rejoignons la RFA.
Mais alors, voilà. Charles, à propos d'RFA, vous n'avez pas l'impression que ce qui ne va pas, c'est notre rapport à l'école. Je veux dire qu'on voit l'école comme une espèce de grande institution, le temple de la République, où on forme des citoyens, voire des soldats, qui ont une mission de sauver un pays, alors qu'en fait, l'école, c'est un lieu de transmission qui est fait pour apprendre des connaissances qui permettent d'avoir des diplômes et d'avoir un métier. Vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir un rapport un peu plus modeste à l'école, ce qui permettrait aux profs, du coup, d'avoir peut-être moins de charges? Je veux dire, on leur en demanderait moins, ce serait peut-être plus adapté à leur métier aussi.
Charles.
Ah, moi, je suis tout à fait pour demander l'essentiel, à savoir la transmission des savoirs. Je pense qu'on peut d'ailleurs supprimer certaines matières. Là aussi, je serais favorable à sortir la tronçonneuse. Je pense que l'éducation civique, elle peut se
faire. C'est ça dont je parle.
En cours d'histoire. Je vais peut-être faire hurler certains, mais j'ai fait beaucoup de cours d'espagnol. Je ne sais pas ce qu'il m'en reste.
Moi
je suis
plus,
pas
j'avoue.
Certain que ce soit vraiment indispensable que tous les élèves fassent une LV2. Je sais que c'est très bien pour leur éveil, pour leur cerveau, pour plein de choses. Mais déjà, bien maîtriser une LV1, c'est pas bon. Ça, c'est une proposition parmi d'autres. Je pense franchement qu'il faut qu'on pense au bien-être des élèves. Les heures d'ennui qu'ils peuvent avoir.
Le bien-être Emmanuel, je pense qu'à ça. Depuis le pédagogisme, on ne pense
pas. Et des chroniqueurs, le bien-être des chroniqueurs.
Oui, important aussi, bien sûr.
Alors justement.
Soignez-vous, Charles.
Non, mais depuis le pédagogisme, on ne parle que du bien-être des élèves et on oublie de leur dire que pour apprendre, il faut bosser, il faut faire des efforts. Moi, j'ai l'impression qu'on s'intéresse à tous les sujets annexes. La durée de la journée scolaire, les activités périscolaires. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? On leur apprend à peine les maths, ils sont devenus nuls en maths, ils sont devenus nuls en français, leur niveau est lamentable. Donc il y a bien un moment où il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on met dans le corpus des enseignements.
À mon avis, il faut assumer d'abord de choisir davantage. Est-ce qu'on les forme en maths? Est-ce qu'on les forme dans autre chose? Il faut assumer de faire un peu plus de choix, d'être peut-être un tout petit peu moins général. Et ensuite, tous les professeurs vous le diront, ils en font tous l'expérience. Les élèves, l'après-midi, quand ils se sont déjà farcis 4, 5, 6 heures de cours, ils ne sont plus en capacité d'apprendre. Donc, pour leur bien à eux et pour le bien de la transmission des savoirs, je
et
pense
pour
qu'on
apprendre
peut
mieux,
faire cette révolution.
Merci Charles Consigny. Vous le savez donc désormais, chaque matin, 7h50, une proposition de droite ou de gauche. Demain, ce sera donc Cécile Duflo. Il est 7h58. Restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h passées de 1 minute. Très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Des classes bien rangées, ça oui, mais un système informatique sans dessus dessous. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, le corps enseignant alerte. Les conséquences de la récente cyberattaque ne sont pas réglées. Bien trop proche de l'original, les consommateurs de CBD, ce substitut du cannabis, s'inquiètent de molécules qui provoquent malaise, intoxication et addiction. Et en foot, déjà le tournant de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Barrage retour de Ligue des Champions, un match contre les Turcs de Fenerbahçe sous haute surveillance.
La rentrée scolaire, pas encore commencée, mais déjà perturbée.
Oui, par les conséquences en cascade de la cyberattaque de l'été contre l'éducation nationale. Fuite massive de données qu'il a fallu bloquer. Et même si le ministre a promis que tout serait remis sur pied dans les prochaines heures, ce n'est pas du tout le constat du personnel, Romain Houg.
Les promesses du ministre sont loin de rassurer Gérard Heinz, proviseur à Cholet, et pour cause.
On ne peut pas finaliser les emplois du temps des professeurs, on n'a pas accès à la base élève, donc on ne sait pas quelle est l'actualisation de nos compositions de classe. En attendant, on n'a pas non plus accès à notre messagerie, hein. Donc on est à l'aveugle.
Pas d'accès non plus au logiciel, ce qui oblige à revenir à l'ancienne, explique Samira Marquez, directrice d'école en Essonne.
On va écrire à la main les derniers inscrits, reprendre les fiches d'inscription une par une, faire à la main les radiations. C'est lorsqu'un élève change d'école.
On fera le job, se résigne-t-elle, en espérant que tout revienne très vite à la normale, partout. partout, sauf, précise le ministre, à Toulouse, où Pierre Prioret est professeur de mathématiques.
Ça ne sera pas une rentrée comme les autres. La situation de l'Académie Toulouse est manifestement extrêmement sérieuse. Pour l'instant, nous n'avons pas de calendrier communiqué par le rectorat. Voilà, on espère avoir très rapidement de la visibilité.
Car si la situation dure, il le craint, les équipes seront tentées par des outils de communication externe, ce qui pourrait engendrer de nouvelles fuites de données.
Romain Hougue avec Solène Leroux. Sur l'autre cyberattaque, celle qui a touché les impôts, un collectif de victimes va déposer une action en justice contre l'État. Elles sont un millier à se joindre à cette action, indique ce matin dans le Morning RMC leur avocat. Mise au point du patron des pompiers de Gironde hier. Non, le Porge n'a pas été abandonné au profit du village plus cossu du Lèche-Cap-Ferré. C'était l'accusation des habitants du Porge. Les pompiers assurent, chiffre à l'appui, qu'il y a toujours eu plus de moyens au Porge qu'à Lège durant les 48 premières heures de ce feu qui a finalement ravagé 42 000 hectares. La préfète de Gironde est attendue sur place aujourd'hui. Des pompiers héros de l'été, mais aussi cible des voleurs. Série de cambriolages de casernes. 5 ce mois-ci du Rhône à l'Isère et à chaque fois, Julie Bro, c'est du matériel de désincarcération qui disparaît et qui peut servir pour de futurs vols.
C'est au petit matin, lors de l'inventaire quotidien du matériel, que le sapeur-pompier Fabien Flayol constate le vol de 2 pinces de désincarcération, des outils capables de découper la tôle des voitures pour secourir des victimes de graves accidents de la route.
Le préjudice s'élève aux alentours de 20 000 euros, donc il y a un vrai coût. Et après, c'est un coût moral, parce que on s'imagine pas être la cible d'un cambriolage pour voler du matériel qui sert justement à porter secours aux gens. Donc c'est moralement inacceptable.
Dans le département voisin du Rhône, 4 autres casernes ont été cambriolées entre le 7 et le 18 août. Du matériel similaire a là aussi été dérobé, déplore le secrétaire général CGT du SDIS de l'Isère.
C'est sûr que quand on a un appareil qui permet de soulever des charges importantes ou de découper toutes sortes de tôles, oui, on comprend que ça peut intéresser des personnes malveillantes.
Selon nos informations, l'une des hypothèses des enquêteurs est que les pinces dérobées puissent servir à des cambrioleurs pour entrer par effraction dans des habitations. Les autorités ont depuis renforcé la surveillance autour des casernes de la région.
Julie Bro du service police-justice de RMC. Une enquête ouverte et 2 versions qui s'opposent. Le député insoumis de Marseille, Sébastien Delogu, porte plainte pour violence volontaire, tandis que 3 policiers l'ont fait, eux, pour outrage à agent après une altercation dans le hall de l'immeuble de l'élu. Les policiers y recherchaient le suspect du vol d'une montre de luxe. 8h05 sur RMC, on en vient à ce substitut au cannabis légal, mais devenu trop fort et trop addictif. Les consommateurs de CBD eux-mêmes alertent sur les réseaux sociaux. Le problème, ce sont des molécules de synthèse ajoutées dans certains produits avec à la clé des malaises, des intoxications et de l'addiction. Louis Salé, vous avez mené l'enquête pour RMC. C'est légal, donc, mais ça peut aussi être dangereux.
Oui, des anciens fumeurs de cannabis illégal m'ont confié avoir acheté en magasin des fleurs de CBD sur lesquelles avaient été pulvérisées en laboratoire des molécules chimiques qui imitent les effets du cannabis. C'est un ajout tout à fait légal que les vendeurs mettent d'ailleurs en avant, mais ces consommateurs ont été surpris par la puissance de ces substances.
Ça montait beaucoup plus vite au crâne, d'une manière assez forte. Et je savais que j'allais être sur mon canapé et que j'allais plus bouger.
Je l'ai pris et j'ai commencé à avoir très mal au cou et très 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 mal au dos. Je sentais mon cœur battre partout. Et là, le trou noir, je ne voyais plus rien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée dans une mare de vomi dans mon salon. J'ai eu très 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 peur.
Sur 8 boutiques spécialisées dans lesquelles je me suis rendue au hasard dans Paris, 6 proposaient du CBD contenant ces molécules aux effets psychotropes, c'est-à-dire euphorisants, planants. C'est dans ces termes que les vendeurs m'ont décrit leurs produits, alors que le CBD est censé être simplement relaxant.
Et donc avec des conséquences graves sur la santé.
Oui, depuis plus d'un an, l'Agence de sécurité du médicament a reçu 500 signalements, une hausse préoccupante d'intoxication liée à ces molécules, appelées les cannabinoïdes de synthèse. Nicolas Autier est psychiatre et pharmacologue.
C'est ce qui est observé par les urgences aussi des hôpitaux qui voient arriver des consommateurs de cannabinoïdes de synthèse dans des états d'angoisse majeurs, des palpitations qui ne s'arrêtent pas, parfois avec une paranoïa très importante, alors qu'ils ne sont pas du tout schizophrènes. Et on voit encore plus de complications qu'avec le cannabis naturel.
Et pourquoi ces produits ne sont pas illégaux? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'une molécule est interdite, une nouvelle est inventée et finie en toute légalité dans les magasins de CBD.
Choix de la rédaction signé ce matin, Louis Salé pour RMC. C'est la rentrée des patrons aujourd'hui, ouverture des rencontres des entrepreneurs de France à Roland-Garros, alors que RMC vous dévoile ce chiffre ce matin. Plus de 33 000 d'entre eux ont perdu leur emploi au premier semestre. C'est 7% de plus que l'an dernier. Étude menée par l'association GSC et la société Altares.
Et d'ailleurs, Bruno Le Maire sera mon invité, notez-le, à 8h30 dans le face-à-face.
En football, Lyon n'a pas le droit à l'erreur ce soir. 21h, barrage retour d'accession à la Ligue des Champions contre Fenerbahçe. Il y avait eu un partout au match aller. Ce sera cette fois à Lyon. Et les autorités craignent des débordements avec les supporters turcs, Nicolas Pelletier.
Oui, le premier match de la saison classé à haut risque par les autorités. Plusieurs unités de force mobile sont déployées depuis hier soir dans les rues de Lyon pour éviter des affrontements entre supporters. Des policiers et gendarmes seront aussi visibles tout au long de la journée dans la ville et autour du Groupama Stadium où 2200 supporters turcs sont attendus dans un déplacement officiel et encadré. Mais la crainte des autorités, ce sont les fans en dehors de ce déplacement. Le club lyonnais a déjà bloqué 400 places disponibles à la revente. Ce soir, toute personne en dehors du parkage qui célèbre un but du Fenerbahçe sera exfiltrée par le service d'ordre. L'OL veut à tout prix éviter les incidents qui avaient pu se produire en 2017 et en 2024 face au club turc du Beşiktaş.
Coup d'envoi, 21h à suivre sur RMC. Puis les États-Unis à l'unisson, et c'est rare, pour rendre hommage à une légende de la country.
Jolene, 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 Jolene.
La chanteuse Dolly Parton est morte des suites d'un cancer à 80 ans. Des tubes comme Jolene que vous entendez. Apolline, je sais que vous êtes fan. Eh bien, vous n'êtes pas la seule.
Ça me donne une émotion. Non, mais je vous jure, je trouve cette chanson, elle est sublime.
Mais vous êtes comme Beyoncé, figurez-vous. Apolline, Beyoncé, qui s'est
rendu compte.
Une artiste talentueuse et déterminée, tout comme Taylor Swift aussi, qui, elle, décrit une artiste éternellement généreuse. Donald Trump, lui, a décrété la mise en berne des drapeaux dans le pays pendant une semaine.
Oh là là, il faut ça. Il faut ça. Jolie. Merci beaucoup, Victor. Il est 8h09. Et bien sûr qu'il y a de l'émotion, mais on repasse au sérieux. Il y a Didier qui est avec nous au 32-16. Bonjour Didier.
Bonjour.
Comment ça va Didier? Vous nous appelez parce que vous vouliez réagir vous aussi à ces propositions. Je rappelle le contexte depuis hier. Chacun parle de ses propositions sur la taxation des héritages. Mathilde Panot à mon micro qui disait à partir de 12 millions on prend tout. Il y a la CFDT, Marie-Lise Léon, qui dit il faut taxer dès le premier euro alors qu'aujourd'hui la barre c'est 100 000 euros. Vous en pensez quoi vous Didier?
Moi personnellement je viens d'hériter là.
Ah. Félicitations, j'ai envie de dire, même si c'est toujours mêlé de tristesse, j'imagine. Mais Didier, comment ça s'est passé?
Ben, ça s'est bien passé. Je vais payer 12% en gros de taxes sur l'héritage. C'est une somme à laquelle je n'avais pas idée d'avoir. Quand le notaire m'a dit, vous rendez compte, vous allez payer autant, je lui ai dit, oui, mais si c'est pour le bien social, si c'est pour notre système social. Moi, ça ne me dérange pas. Mmh. Et le notaire me dit, oui, mais ça se trouve, l'argent sera mal dépensé. Je dis, ça, c'est autre chose. Ça, si l'argent est mal dépensé, c'est autre chose.
Vous avez fait un vrai débat politique avec votre notaire. J'aime bien.
Oui, j'ai eu un vrai débat politique. Donc, je paye 12% de frais de succession.
Ça veut dire 12%, pardon Didier, mais je me permets de rentrer un peu dans les chiffres. Ça veut dire que c'est plus qu'effectivement les 100 000 euros, mais c'est pas non plus les héritages les plus importants où ça peut aller jusqu'à 40%, voire 60% si c'est pas en transmission directe, hein.
C'est ça. Non, moi, c'est un petit héritage de 12%.
Mais c'est bien. Non, mais je trouve, Didier, votre approche, c'est en gros, vous vous dites, il faut taxer proportionnellement. Et est-ce qu'on pourrait taxer dès le premier euro?
Alors, dès le premier euro, je trouverais ça dur. Parce qu'en fait, je vois mon père, moi, il est hérité de sa mère. Il a touché 5 000 euros. Enfin, il y avait 5 000 euros d'héritage en tout. Donc, je trouverais dur d'avoir pris ça à mon père. Mais
Après toute une vie.
Après toute une vie, moi je trouve que 100 000 euros c'est une bonne approche. Ça permet à des gens qui n'ont pas d'argent, moins de 100 000 euros, ils ont 100 000 euros qui viennent directement chez eux. Ça peut permettre aussi de changer une vie, de payer une maison, de rembourser les prêts. Voilà. Et au-delà de 100 000 euros, ça commence quand même on peut laisser une partie.
Je trouve intéressant de me dire que vous avez dit à votre notaire, finalement, je les paye volontiers. Arthur.
Eh oui, vous avez raison dans ce que vous dites, Didier, parce que quand on pense au modèle social, le modèle social, il a aussi permis à des gens de faire fortune et de gagner de l'argent.
Oui. Mais tant qu'il marche. Mais, c'est exactement
non,
ça qui
bien sûr que oui, tant qu'il marche. Donc je dis, je suis bien sûr qu'il faut pas taxer dès le premier euro. Enfin, tout ça paraît extravagant. Mais le modèle social, il permet aussi d'aménager sa vie et de la gagner. Enfin, ça existe aussi, quoi.
Non, mais sur les plus grosses transmissions, parce que c'est ça le sujet.
Bien sûr.
Le sujet, c'est est-ce que des gens vont être obligés de vendre des entreprises, finalement, pour pouvoir.
Il y a un dada, Emmanuel, ce matin.
Non, mais c'est ça le seul sujet. Ouais. C'est ça le seul sujet. Et après, l'autre sujet, c'est comment on fait effectivement pour dynamiser tout ça et inciter le plus possible à transmettre son patrimoine à ses enfants, voire petits-enfants, pour qu'ils fassent tourner l'économie française.
Didier, je précise d'ailleurs que vous avez 58 ans, que vous nous appeliez de Dijon, et 58 ans, on le disait, en moyenne, les Français héritent aux alentours de 50 ans. Merci pour votre témoignage, Didier. 8h13 sur RMC. Dans un instant, on va parler climat, parce que 63% des Français estiment qu'à l'aube de cette année très politique, eh bien, les politiques n'ont pas de réponse concrète et crédible sur le climat. Et après cet été particulièrement inquiétant, pourtant, la politique du climat, ça passionne les Français. François Gémen est en direct avec nous dans un instant. Bonjour.
Bonjour,
spécialiste du climat, membre du GIEC. Les politiques considèrent ce sujet comme secondaire. Voilà ce que vous regrettez, vous nous le dites dans un instant. 8h13.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h16, très belle journée sur RMC et RMC Story. 63% des Français considèrent qu'aucun parti politique, aucun candidat n'a de proposition vraiment crédible face au changement climatique. Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes spécialiste du climat, membre du GIEC. Finalement, est-ce que ça veut dire que les Français sont en avance sur la classe politique ?
Ah bah depuis longtemps. Je dirais que sur le sujet du climat, ça fait longtemps que la société française dans son ensemble est quand même en avance sur la classe politique, qui donne quand même l'impression d'être un peu à la remorque de la société et d'être sans cesse prise au dépourvu face aux impacts du changement climatique. Alors ceci dit, je trouve les Français peut-être un peu sévères, on peut pas dire qu'il y ait rien du tout, mais on a l'impression qu'il y a des propositions éparses un peu de ci, de là, un grand plan clim, un congé climatique, un ministère de l'eau. Tout ça est sans doute intéressant, mais n'est pas très structuré dans un programme. Et je crains qu'en fait, ces mesures ne deviennent surtout des marqueurs idéologiques pour distinguer la gauche de la droite et donc deviennent en quelque sorte des épouvantails.
En fait, vous voulez sortir l'écologie de l'idéologie. C'est d'ailleurs ce que souhaite aussi Jean-Marc Jancovici, autre spécialiste du climat et de l'énergie. Il annonce qu'il va créer une sorte d'assemblée citoyenne pour interpeller les politiques sur des propositions très très concrètes. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire effectivement d'engager ce débat ?
Pourquoi pas ? En tout cas, je pense qu'il est nécessaire d'engager le débat et effectivement, il est absolument nécessaire de donner une forme de continuité à la transition écologique, que ce soit pour les questions de décarbonation, de réduction de nos émissions ou que ce soit pour les questions d'adaptation. Le problème, c'est que si ce sujet devient une sorte de totem idéologique de la gauche ou de la droite, dans une démocratie qui est caractérisée par l'alternance politique, le risque, c'est qu'un gouvernement ne défasse systématiquement ce que l'autre a fait pour des raisons strictement idéologiques. On voit bien à quel point l'idéologie a plombé la mise en place de toute une série de mesures pragmatiques sur la climatisation, sur le nucléaire, sur d'autres sujets. Il faut absolument tracer une véritable continuité. Et donc, effectivement, ça implique de sortir de l'idéologie pour regarder les solutions qui fonctionnent.
Oui, François.
Emmanuel.
On disait il y a quelques années, l'écologie, ce sera pas un parti vert, mais ce sera un peu de vert dans tous les partis. C'est quand même ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que plutôt le déficit n'est pas au niveau des propositions qui soient emballantes, qui soient séduisantes. C'est-à-dire que est-ce que finalement tout ce qu'on nous propose ne relève pas de la contrainte de l'écologie punitive, en fait?
Bien sûr, c'est pour ça que, en fait, c'est pas très vendeur politiquement dans une campagne. Alors effectivement, un point positif, je crois, c'est que tous les partis aujourd'hui se saisissent un peu de ce sujet. Et évidemment, aucun candidat à la présidentielle ne pourra faire l'économie, je pense, d'en parler. Ça va être un peu une figure imposée. Par contre, le problème, c'est que c'est souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, présenté en termes de contraintes, d'efforts à fournir, de coûts supplémentaires, de sacrifices auxquels consentir, c'est-à-dire des trucs qui font pas rêver les Français, des trucs dont personne n'a envie. L'enjeu, c'est de le présenter comme un vrai projet économique, un vrai projet de société pour le 21e siècle.
Et ça, le débat est lancé. Vous viendrez en studio nous en parler. Merci François Gémen d'avoir répondu effectivement à cette inquiétude des Français. Je le rappelle, 63% des Français considèrent que sur ces questions cruciales, les politiques n'ont pas de réponse à la hauteur. François Gémen, spécialiste du climat et membre du GIEC. Il est 8h19, c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Voilà, bonjour à tous. Accident de micro. Bonjour Apolline, bonjour les amis. Alors, c'est la rentrée cette semaine sur RMC, c'est la rentrée sur BFM, mais c'est aussi la rentrée sur BFM Business. Hein. On l'oublie souvent, mais l'actualité économique, c'est là-bas que ça se passe, grâce aux analyses pointues du couple Edwige Chevrillon-Emmanuel Le Chip, qui reviennent après des vacances à deux bien méritées. Ça, fallait les voir au karaoké de Francfort.
Allez, Moumoune.
3, 4.
Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir.
Oh oui, Moé.
Très, très belles vacances. Donc, bref. Banquier, banquière, bonjour. C'est la rentrée sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre. L'essence est toujours à 2,20€ le litre.
Et oui, Moumoune, comme le rosé du petit resto près de la banque centrale de Düsseldorf.
Bon, c'est fini les vacances, tous les deux.
Ça suffit.
Alors, c'est vrai que l'essence reste chère, car le détroit d'Ormuz est toujours bloqué.
Oui.
Ça n'en finit pas, cette histoire.
Quelle histoire.
Le détroit. Des fois, il est ouvert. Et puis des fois, il est fermé.
Et ouais.
En ce moment, il est...
Fermé,
vous l'avez eu. Si vous avez loupé l'actu Ormuz en juillet et août, je vous résume. Alors, on a eu fermé, ouvert, fermé. Voilà. Deux mois d'actu en 4 secondes et... Bon, Alain Duhamel, il vient de se prendre mon expertise dans les dents qui lui reste.
Oh non, c'est pas correct.
Oh mon Dieu.
Donald Trump menace de frapper les Iraniens, de mettre en place un péage. Les Iraniens menacent de couler les bateaux. Il faut une nouvelle réunion avec des médiateurs. Les Pakistanais et l'ONU, ça n'a pas marché.
Non, pas bien.
Je propose Hamza Ladouane.
Mais bien sûr.
Vous savez, le gamin avec un pistolet à eau qui faisait payer les gens qui allaient se baigner au canal Saint-Martin. Ben voilà, Trump et Hamza Ladouane, ils sont faits pour s'entendre. Voilà. Ils aiment bien jouer avec les droits de douane.
Ah, c'est bien vu, ça.
Et quand t'es pas d'accord avec eux, ils tirent dessus. Donc,
le canal Saint-Martin, des droits d'Ormuz, c'est pas...
Allez, prends ça, Alain Duhamel.
J'aime beaucoup. Donc, Hamza Ladouane, il a d'ailleurs été interpellé dans un McDo à Paris il y a quelques jours.
Oui, parce que Hamza Ladouane, il voulait plus de frites dans son Happy Meal.
Ah oui.
C'est véridique. Hein.
C'est une vraie histoire.
C'était des frites, sinon je t'éclabousse. Tremble, Jacques Mesrine. Non, en vrai, pas sûr que Netflix rachète les droits. Parce que là, la caissière était paniquée.
Allô, la police, je vous en supplie. Il est en train de recharger son pistolet avec de la mayonnaise.
Et là, les flics arrivent. Hamza, fais pas le con. Pose ce pistolet à eau par terre. Nos voitures ont des essuie-glaces, t'as aucune chance. Si tu te tiens à carreau à tes 18 ans, on t'embauche et tu conduiras le blindé avec le canon à eau, là.
Jamais, je vais vous tirer dessus avec la mayonnaise.
Et là, t'as Manu Le Chypre qui arrive et qui fait... Pour attraper la mayonnaise. Bon,
vous faites très bien le bruit de la mayonnaise, Arnaud.
Voilà. C'est encore un peu les vacances.
Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, visé par une enquête pour détournement de fonds publics au sujet de son ancien poste à la RATP.
Oui, on est tous tombés des nues avec ça. À la RATP, il y a des emplois qui ne sont pas fictifs. Il y a vraiment des gens qui sont censés travailler là-bas. Non, parce que quand tu vois la gueule du métro parisien, c'est pas évident. Quoi.
Non, pas
bref, Bali s'est fait choper. Bali, c'est ballot.
Oh non.
On nous le vendait comme le Barack Obama français. Finalement, c'est juste le François Fillon du 9-3. Et alors, chez les Républicains et ORN, ça y est, on a enfin changé d'opinion sur Bali Bagayoko. Maintenant, on le respecte. On est là. Il est des nôtres. Il a détourné comme les autres.
Très bon.
Et c'est l'occasion, Apolline, du premier quiz de la saison.
Voilà.
Ce politique a-t-il exercé cette profession? Attention, c'est parti.
C'est un très bon dessin. C'est parti.
C'est la culture. Avant d'être ministre, Monique Barbu était imam. Emmanuel Macron a été banquier.
Oui.
On dirait pas, hein,
non.
Et pourtant c'est vrai.
Oui.
Xavier Bertrand était assureur.
Oui, l'assureur du Nord.
Éric Zemmour a tenu une chicha à Aubervilliers.
Non, c'est pas vrai.
Eh bien, c'est vrai. Éric Ciotti a été borne kilométrique sur la nationale 12. Nicolas Sarkozy a été fleuriste chez Hermès à Neuilly. Si, c'est vrai. C'est vrai, c'est pendant ses études. C'est assez authentique. DSK, lui, travaillait chez Herpès à Neuilly.
Non,
ça, c'est faux. Gérard Larcher était vétérinaire.
Oui, vrai, oui. Vrai,
vrai. Puis après, il s'est recyclé en gériatrie au Sénat.
Oui, c'est ça.
Avant d'être ministre, Gabriel Attal était un fœtus.
Eh ben, c'est vrai.
Jack Lang a été DRH pour une société minière. Non, je l'ai calomnie. Calomnie. Je n'ai jamais recruté le mineur. C'est le genre de mensonge que l'on entend chez Apolline de Malherbe dans des rubriques de persiflage prétendument humoristique. J'en parlais avec mon ami Jeffrey qui me disait: un véritable humoriste, c'est Woody Allen.
Ah, bah
oui, j'ai tout à apprendre.
Son ami Woody. Merci.
Allez, à demain.
Arnaud, qu'on retrouve tous les matins. Il est 8h25. On se retrouve dans un instant sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Mais il n'a pas vraiment envie d'en rester là, vous allez voir. À tout de suite.
Il est 8h30, tout de suite sur RMC. C'est le face-à-face avec Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être avec moi pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de l'économie, évidemment. Vous êtes aussi auteur. Votre dernier livre, c'est Le temps d'une décision. Et puis désormais, vous êtes auteur aussi d'un manifeste. Vous venez de le publier. Ça s'appelle Pour une autre France. En préparant cette interview, pour tout vous dire, j'oscillais entre d'un côté une interview très sérieuse, parce que vous êtes un homme sérieux, que vous avez fait des propositions très sérieuses, très travaillées, assez révolutionnaires pour certaines. Et en même temps, à chaque fois que j'écrivais une question, je me disais, mais pourquoi lui? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, qui a quand même été à la tête des finances de l'État pendant 7 ans, serait crédible pour faire la leçon et dire on change tout?
D'abord, je m'en voudrais de vous créer des mots de tête à poser.
Ne vous inquiétez pas.
Donc, je vais essayer de répondre très clairement à votre question. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie publique. J'ai occupé plein de fonctions, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. Et puis j'ai pris ma liberté. Je travaille pour ASML, le géant des semi-conducteurs. Je travaille pour l'aide sociale à l'enfance, côté Céline Gréco, qui est une chef de service exceptionnelle à l'hôpital Necker. Et j'ai du temps pour réfléchir et regarder où en est la France. Et je suis obligé de me dire, voilà, ça fait 30 ans que je me suis engagé dans la vie publique, et fin 2026, on en est où?
Alors, 8% si on vous lit, chômage, on en est au bord du précipice.
Hein. On n'en est pas là où on devrait être. 8% de taux de chômage, un déficit qui continue de progresser alors qu'il n'y a plus ni Covid, ni début de la guerre en Ukraine, une désindustrialisation qui a repris depuis 2024 alors que, si j'ai une fierté, c'est qu'on avait engagé la réindustrialisation du pays. Donc nous n'en sommes pas là où nous devrions être, nous les Français. Donc je prends toute ma liberté pour dire, des mesures ne suffiront pas. Un catalogue de propositions ne suffira pas. Il faut une nouvelle vision pour le pays, ce que j'appelle une autre France, qui nous permet de basculer du vieux modèle qui a échoué. Et j'ai participé à ça, j'ai essayé.
Il faut faire comme en 1958.
Il faut faire comme en 1958. Il faut recréer un nouveau modèle dans un nouveau monde. Vous avez un monde qui est marqué par quoi? Le retour de la brutalité sur la géopolitique, la transformation climatique qui nous prend tous de court, elle va beaucoup plus vite que prévu. Et une accélération technologique. Je suis aux premières loges en travaillant pour le premier producteur de semi-conducteurs en Europe et le seul géant technologique en Europe. Ben, on peut pas garder le vieux modèle. Il est en échec.
Vous avez trois grandes priorités. Vous avez trois grandes priorités. On va y revenir. L'autorité, la prospérité, la souveraineté. La dette, c'est le mot. Il y a deux questions en particulier là en ce début, en cette rentrée politique. C'est la question du rapport à la dette et aussi la question du rapport à l'héritage. Sur la dette, d'abord, Jean-Luc Mélenchon d'un côté qui dit il faut brûler la dette. Alors une partie, hein, il parle de celle qui est détenue par la BCE ou par la Banque de France. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent non, il faut coûte que coûte revenir dans la trajectoire. Vous vous dites, attention, on est carrément au bord d'un moment où il y a une crise de souveraineté. La France pourrait être mise quoi, sous tutelle. Est-ce que vous vous inquiétez de ça? Est-ce que c'est réaliste?
C'est bien sûr que je m'inquiète de ça. Les propositions de Jean-Luc Mélenchon, qu'il aille au bout de son raisonnement, qu'il ait le courage d'assumer ses positions, déchirer la dette française comme il le propose, brûler les titres de dette, c'est foutre le feu au pays et c'est sortir de la zone euro. Donc ça, c'est un choix, ça a le mérite de la clarté. Mais Faisons preuve de clarté. Un moment qui est si grave dans l'histoire de notre nation. C'est une sortie de l'Europe. Regardez ce qu'a donné le Brexit pour la Grande-Bretagne. Ça a écarté la Grande-Bretagne du jeu européen et ça a écarté la Grande-Bretagne du jeu international et ça a appauvri la Grande-Bretagne. Si on veut la même chose pour la France, on suit les recommandations de M. Mélenchon, on annule les dettes françaises et on sort de la zone euro. Parce qu'il est évident que nos partenaires de la zone euro, disons, sont bien gentils, ils ne remboursent pas leurs dettes, ben ils sortent du club.
La dette, vous y avez eu beaucoup recours.
Ils ne sortent plus, ils ne participent plus à la zone euro.
Est-ce que là-dessus, deuxième il n'y a pas un mea culpa? Pardon, je veux dire, vous avez été ministre de l'économie, la dette n'a jamais été aussi
Apolline
énorme
de Malherbe,
que
là. J'ai dit à de multiples reprises que j'assumais mes responsabilités. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde devant. Et qu'on regarde aussi, si je peux me permettre, on s'est débarrassé du ministre des Finances de l'époque. Et c'est lui le problème. C'est lui les 1 000 milliards d'euros de dette. On en est où aujourd'hui?
Pire.
1 300 milliards d'euros de dette, pire, je peux pas dire mieux que vous, pire. Est-ce qu'il y a quelque chose
vous
qui justifie?
Vous avez l'impression d'avoir été un peu le fusible confortable pour Emmanuel Macron. Vous
dites qu'on m'a... Il y a un très bon philosophe français qui s'appelle René Girard qui disait que lorsque quelqu'un veut résoudre le problème...
Le bouc émissaire.
Et que les gens ne sont pas d'accord pour résoudre ce problème, on l'élimine, ça s'appelle le sacrifice réconciliateur. Donc la personne est éliminée, mais le problème reste entier.
Vous avez
moi,
dit le bouc émissaire.
Mon sujet, c'est de régler le problème de finances publiques du pays.
Bon, alors on
quelques
fait comme...
remarques là-dessus. D'abord, le sujet prioritaire, c'est pas la dette, c'est le déficit. C'est le déficit qu'il faut maîtriser. Parce que quand les marchés, nos prêteurs, voient que nous ne maîtrisons pas notre dépense publique et que les déficits augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune raison pour le faire, eh ben ils nous font payer plus cher. Donc les taux d'intérêt explosent, 3,9, 4, 4,1%, peut-être bientôt 4,5, voire 5% de taux d'intérêt. Ça pèse sur la charge de la dette, donc c'est autant d'argent en moins pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les collèges. Puis ça pèse ensuite sur votre capacité d'emprunt quand vous voulez acheter
comment
un logement.
Comment on fait pour réduire ce déficit?
Regardez
vous
ce que j'ai écrit.
Proposez-vous des mesures d'urgence, des indexations de tout, pension de retraite,
d'urgence.
Aide sociale, barème de l'impôt sur le revenu, ça revient en quelque sorte à une année blanche?
Il faut une règle, un frein d'urgence et une méthode. La règle, elle a été proposée par Thierry Breton, je le rejoins parfaitement. Il faut une règle d'or sur l'équilibre des comptes publics de niveau constitutionnel. Pour qu'elle s'impose à tous les partis politiques, je le redis, j'en ai été le témoin.
Plus qu'on a.
Si vous n'avez pas cette règle constitutionnelle, de toute façon, les partis politiques ne veulent pas le rétablissement des comptes. Donc il faut leur imposer par la Constitution. C'est la règle d'or. Deuxième chose, il faut une méthode. La méthode, c'est d'avoir un ministre des Finances, je l'ai proposé dans mon texte, qui a un droit de veto sur toutes les propositions de dépenses des ministres, qui veulent toujours faire une annonce le matin pour dire qu'ils ont dépensé tant, ici ou là. Il faut réduire le pouvoir d'amendement des parlementaires. J'ai fait 7 budgets. À 7 budgets, les parlementaires m'ont proposé des dépenses supplémentaires. Donc réduisons la capacité...
La possibilité même de faire des propositions
sûr,
de dépenses supplémentaires.
C'est toujours des propositions
interdites.
De dépenses supplémentaires. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. On limite le droit d'amendement des parlementaires pour éviter les dépenses. Et puis, il faut activer le frein d'urgence. Et ce frein d'urgence, il doit être efficace et juste, équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut désindexer les pensions de retraite.
Toutes
les minima sociaux,
petites, grandes.
Le barème de l'impôt sur le revenu. Préserver évidemment les petites retraites.
Okay.
Il suffit.
C'est quoi les petites retraites, ça s'arrête où?
Mais les petites retraites, quand vous avez, vous touchez 1200, 1300 euros par mois de retraite, hein, il est évident que désindexer votre pension peut vous mettre dans une situation extraordinairement difficile.
Okay, donc on préserve celle-là, mais pour les autres?
Je laisse ça aux spécialistes, qu'il y ait une discussion, un dialogue. Mais le seul frein d'urgence qui est à disposition du gouvernement pour nous permettre d'éviter d'aller dans le mur dans lequel
c'est
nous allons tout droit en klaxonnant, c'est la désindexation.
Y compris
des minima sociaux,
du barème
de l'impôt sur le revenu, et des pensions de retraite. C'est revoir toutes les allocations qui sont aujourd'hui accordées aux étrangers en situation illégale, pour lesquels nous payons aujourd'hui des montants qui peuvent être extraordinairement élevés. Là aussi, c'est une question de justice. Vous ne pouvez pas dire aux retraités français, attendez, on va faire un effort, vous allez payer pour cet effort, mais en matière de politique migratoire, d'aide aux étrangers en situation illégale, attention, on ne touche rien. Il faut là aussi que l'on révise l'intégralité des prestations qui sont accordées.
Vous voulez aussi bouger l'âge de la retraite, 65 ans, et introduire de la capitalisation.
Alors j'ajoute juste une troisième chose sur le frein d'urgence, parce que c'est très important en matière d'équité, et je rassure votre éditorialiste, je n'ai jamais été socialiste, et je n'ai pas vocation à devenir socialiste, mais je pense qu'il est très important qu'on demande aux plus grosses fortunes une contribution. Et que cette contribution, ça puisse être pour le financement, par exemple, de nouveaux services d'urgence dans les hôpitaux, ou d'écoles, ou de rénovation des universités.
Mais sur le modèle d'une forme de mécénat?
Par exemple, c'est ce qui a été fait pour Notre-Dame. Beaucoup de très grandes fortunes ont contribué. Qu'est-ce que ça donnera? ça donnera ce sentiment très profond que toute la collectivité française, toute la nation a compris la gravité du moment, refuse de mettre son destin dans les mains de ses créanciers et dit tous ensemble, nous allons redresser nos comptes pour retrouver notre liberté.
Bruno Le Maire.
Et chacun en tirera un bénéfice puisque ça vous permettra ensuite de retrouver des marges de manœuvre pour investir dans les nouvelles technologies, dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans les services publics prioritaires qui sont l'hôpital et l'école.
Pour relancer aussi la société, il y a la question de l'héritage. Est-ce qu'il faut, Mathilde Panot hier matin disait, à partir de 12 millions, on prend tout. Marie-Lise Léon, la CFDT, elle dit il faut taxer dès le premier euro de la succession. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais c'est étonnant cette manière qu'on a dans le débat public français de poser les mauvaises questions et donc d'apporter les mauvaises réponses.
Pour vous, c'est pas la question de la succession ?
Non.
Quand Marie-Lise Léon
oui,
dit...
Oui, il y a un vrai sujet sur les héritages. Un sujet sur les héritages, c'est les classes moyennes qui payent trop de droits de succession. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quand vous avez gagné correctement votre vie, mais vous n'êtes pas millionnaire, et que vous arrivez à la retraite, que vous avez un certain pécule, une maison, un appartement, et qu'il faut transmettre à vos enfants, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, lorsque vous le ferez après votre décès, les droits de succession vont être très élevés. Les droits de succession en France sont parmi les plus élevés en part de la fiscalité de tous les pays européens. Donc moi, mon vrai sujet, c'est pas à nouveau d'aller dire on va aller taxer les riches, ceci, cela, pour récupérer un milliard ou deux, alors même qu'aujourd'hui, on a 160 milliards de déficit à trouver. Mon vrai sujet, c'est de l'efficacité pour lutter contre la dérive des comptes, et de la justice pour tous ceux qui bossent, qui travaillent, qui n'en peuvent plus, au moment de l'héritage, les classes moyennes, qu'on leur demande un effort encore plus important. Je propose par exemple, ça me paraît plus intéressant, de regarder comment est-ce que vous pouvez transmettre de votre vivant davantage d'argent à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, libre de droits, libre de taxes, libre de frais.
Vous en avez parlé avec Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau. Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous vous dites, tiens, il y a une idée même peut-être d'une grande primaire du centre? Est-ce que vous travaillez sur ces questions avec eux ou est-ce que vous travaillez dans votre coin?
Je ne travaille pas du tout dans mon coin, mais je travaille d'abord avec les gens que j'ai rencontrés, avec les Français, pas avec les partis politiques. Ensuite, c'est quoi les conditions d'une victoire pour nous tous collectivement? La première condition, c'est l'offensive. Moi, je suis à l'offensive, matin, midi et soir, pour proposer une vision nouvelle du modèle français. Il est en situation d'échec, il faut le refonder.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur le terrain, chaque jour il y a des propositions.
Mais c'est très bien.
Tiens, aujourd'hui, Édouard Philippe et Gabriel Attal font des propositions sur l'école.
Mais c'est très bien, je dis simplement que nous devons être beaucoup plus radical, beaucoup plus offensif et présenter surtout une vision globale. Une présidentielle, c'est pas prendre le sujet éducation, puis le sujet finances publiques, puis le sujet défense, et à chaque fois apporter ses propositions sur tel ou tel sujet. C'est dire, c'est quoi notre vision globale du pays? Quand je dis les trois priorités, c'est la prospérité, l'autorité et l'intégration européenne. Sur la prospérité, c'est quoi le problème? On le voit tous, il est très simple. Tous ceux qui travaillent payent tout. Et ceux qui bossent n'en peuvent plus de payer en charges, en cotisations, en impôts, des sommes qui sont de plus en plus importantes. Dans les années 70, quand vous gagnez 100 euros, vous en gardiez 70. Aujourd'hui, quand vous gagnez 100 euros, au niveau du salaire moyen, vous en gagnez à peu près 50. Vous en gardez à peu près 50, 54 très exactement.
Dans votre poche.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans les années 70, en une génération, vous pouviez doubler votre niveau de vie. Aujourd'hui, il faut attendre les calendes grecques pour arriver à améliorer votre niveau de vie. Donc le vrai sujet de fond sur ce premier thème de la prospérité, c'est de dire, désormais, notre modèle social ne sera plus financé par le travail.
Ça va servir à quoi? Est-ce que vous voulez être influenceur de ces présidentielles ou est-ce que vous voulez être candidat?
Je n'ai vocation ni être socialiste, ni être influenceur. Je suis engagé dans le débat politique, mais ma singularité, c'est que je mets le pays, la France, avant ma personne. Ma personne, elle compte pas beaucoup dans cette histoire. Je dis pas tout, je suis pas candidat. Ce n'est pas du tout mon calendrier. Ce n'est pas du tout mon calendrier. Et je dis simplement que nous sommes dans une élection grave. C'est une question de calendrier et c'est une question d'écoute des Français. Les Français ne sont pas dans la campagne présidentielle. Vous y êtes. Les responsables politiques y sont. C'est normal.
Moi, je crois qu'ils le
sont. C'est légitime. Je pense qu'ils commencent à regarder progressivement. Mais nous n'avons aucune chance de desserrer l'étau entre le Rassemblement National et la France Insoumise si notre proposition se résume à un combat de coq entre les personnes.
Et c'est le cas.
Aucune chance.
Et c'est le cas.
Donc il est urgent de revenir un débat collectif entre nous sur ce que nous voulons pour le pays.
Je viens de vous demander si vous bossiez ensemble. Vous m'avez dit non,
vision,
moi je bosse avec les
Français. Non, mais quand vous préparez quelque chose, quand vous réfléchissez, que vous avez 30 années d'espace derrière vous, c'est du silence, c'est du retrait, c'est réfléchir à ce que vous voulez dire pour les Français, et ça donne le manifeste que j'ai publié, qui est consultable sur mon site internet www.uneautrefrance.fr. Je le dis pour tous ceux qui voudraient le lire.
Uneautrefrance.fr.
Uneautrefrance.fr. Mais je le redis, la seule façon pour nous d'écarter le spectre d'un deuxième tour entre Rassemblement National et LFI, c'est pas d'être contre, c'est d'être pour. C'est de montrer qu'on a envie. On a envie vraiment de proposer quelque chose de radicalement différent. On va pas se contenter d'une mesure ici ou là.
Vous trouvez que là, proposer... chacun dessert ou resserre les boulons, quoi. C'est pas à la hauteur, à vos yeux.
Pour le moment, mais on a du temps encore devant nous. Je vais vous dire s'il y a un candidat qui émerge à la fin de l'année.
Ça veut dire que vous vous dites d'ici la fin de l'année, d'ici quoi? D'ici Noël, il faut que l'un de nous, c'est-à-dire le centre, ait vraiment réussi à sortir du peloton.
Bien sûr. Et ça formera une équipe. Enfin, personne ne pense une seconde. Enfin, je l'espère que tout le monde a suffisamment de lucidité pour comprendre qu'il n'y aura pas de sauveur. Que c'est une équipe qui sauvera le pays. Et par conséquent, ce qui compte, c'est pas de se mettre soi-même en avant, c'est-à-dire voilà la vision que je propose.
Mais pourquoi vous faites pas une primaire?
À partir de là,
David Lisnard dit faisons une grande primaire.
C'est la responsabilité. C'est la responsabilité.
Oui. Pourquoi pas?
C'est la responsabilité des partis. Je ne suis pas chef de parti. Vous leur poserez la question. Si nous avons une vision qui est claire, on s'y retrouve tous.
Puisque vous le voyez bien, Gabriel Attal est dans un parti, Édouard Philippe est dans un autre, Bruno Retailleau encore un autre. Alors qu'en réalité, ils ont pas mal en commun. Vous aussi.
Mais bien sûr. Mais regardons chacune
non, mais
des
si
visions
vous laissez
qu'on propose.
Les partis décider, ça marchera jamais.
Mais je reviens au fond parce que je pense que ces histoires de partis, d'arrière cuisine, quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe dans l'arrière cuisine. Vous avez envie de voir ce qu'il y a dans votre assiette. Qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette des Français? Moi, je leur dis un, nous allons financer le modèle social par la taxation de la consommation, la taxation des importations, la taxation des géants du numérique, et du coup, on va pouvoir alléger massivement les charges qui pèsent sur les salaires pour qu'à la fin du mois, vous ayez un salaire net plus élevé et que le travail, enfin, paye dans le pays. Est-on d'accord? Oui ou non? Pour le moment, j'ai vu personne.
Gabriel Attal le dit, par exemple. Beaucoup. Il faut que le travail paye.
Oui, mais
Édouard Philippe le dit aussi.
Je suis d'accord, mais
je pense que Bruno Retailleau également.
Apolline de Malherbe. Comment? Enfin, l'argent, il tombe pas du ciel.
C'est là que c'est difficile, Bruno
oui,
Le Maire.
Comment
est-ce que vous allez faire pour
je repose ma question.
Pour sortir
comment
de
le
l'image de celui qui a quand même dilapidé une partie de l'argent public.
Comment le faites-vous pour basculer d'un financement sur le travail au financement sur une autre base pour que le travail paye notre pays? Je fais ma proposition, je mets carte sur table. Que chacun mette carte sur table, et ensuite on regardera tous entre nous ce qui convainc le plus les Français. Même chose sur l'autorité de l'État. J'ai proposé une réforme total de l'organisation du pays. État, région, bloc communal. Les départements qui fusionnent avec les régions. 10 ministres, pas un de plus. La réduction du nombre de parlementaires. La suppression du 49-3 pour éviter de donner un sentiment de brutalité aux Français quand on adopte une loi. Un Premier ministre qui est chef d'équipe, même ministre des Finances, qui a un droit de veto, je le redis, sur les dépenses publiques.
C'est un programme.
Mais c'est pas une question de programme, c'est une vision pour le pays qui doit permettre au pays d'être plus efficace. Qu'on se dise qui est responsable de quoi.
Mais je comprends pas pourquoi vous l'assumez pas.
Et pourquoi j'assume pas quoi?
Bah qu'en réalité, quand vous dites on verra lequel d'entre nous convainc le mieux, ça veut bien dire qu'en réalité vous êtes dans la course.
Mais c'est pas du tout une course. Enfin, à Pine de Malherbe.
Non mais c'est pas une course.
Non mais ne
faisons pas les hypocrites. C'est pas une course au sens où effectivement c'est pas une course de petits chevaux. Mais malgré tout c'est une élection. Vous êtes un homme politique suffisamment aguerri pour savoir qu'en réalité ce qui se joue et c'est du débat des idées. Je ne dis pas que ce n'est pas un débat des idées, mais c'est un débat d'idées. Et celui qui aura les idées les plus convaincantes pour son camp les portera.
Et bien sûr, mais.
Je ne réduisez pas ce que je dis à une histoire de course de petits chevaux. C'est pas du tout le cas. Ce que je veux simplement dire, c'est que vous mettez des propositions très concrètes,
bien
très
sûr.
Solides. Chacun peut être d'accord, pas d'accord. Mais comme hier, avec Patrick Panot, vous avez des idées claires.
Ces propositions, elles sont là pour défendre une vision de long terme du pays. Et je le redis, faire basculer le pays d'un vieux modèle
mais
qui a échoué.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous vous contenterez d'être influenceur?
La deuxième chose, qui me paraît totalement essentielle. C'est pas une élection comme les autres. Enfin, j'aimerais juste qu'on mette un peu de gravité là-dedans. Et vous allez pas me faire dire, tiens, je vais réfléchir, je vais être candidat. C'est trop grave. Enfin, qu'est-ce qui se passe actuellement à Pointe de Malherbe dans notre pays? Ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous sommes à deux doigts d'avoir une élection où vont se confronter pour la première fois depuis 1958 des visions de la société qui sont irréconciliables. On n'est même pas en 81 où il s'agissait de savoir si on allait taxer un peu plus les uns, taxer un peu moins les autres, quel modèle économique. Enfin,
à l'époque, c'était quand même considéré comme un vrai tournant.
Apolline de Malherbe, c'est des visions de la société qui sont totalement incompatibles. La vision de la France insoumise, c'est une vision communautariste, haineuse du pays, qui va susciter l'hostilité entre les Français. Le Rassemblement national, c'est une vision de la République étriquée, où les libertés publiques sont réduites. Donc les gens ont peur, ils sont inquiets. Donc nous, notre devoir, les partis de gouvernement, c'est d'abord de faire émerger une autre vision de la société dans laquelle on montre aux Français que ce 21e siècle qui commence, mais ça tombe bien, on a tout pour y réussir. C'est un siècle de nouvelles technologies, on n'a jamais été aussi bon sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les technologies de rupture que la France. C'est un siècle où on va avoir besoin d'énergie décarbonée. La France a le nucléaire. C'est un siècle où on va avoir besoin de créateurs et de gens inventifs. Il n'y a pas un peuple plus imaginatif et créatif que les Français. Il faut simplement que nous changions notre modèle institutionnel, politique, économique, social, comme je le propose dans mon texte, pour que tous ces atouts français soient valorisés.
Vous aviez cru au macronisme.
Et ensuite,
le macronisme proposait une révolution.
Qui pourrait
le macronisme proposait une révolution.
Et je pense
que promettait une révolution.
Bien sûr. J'emploie pas ce terme de révolution. Je pense pas qu'il soit approprié.
On allait très loin dans l'idée d'un nouveau modèle.
Mais je pense que nous ne sommes pas allés assez loin dans la reconstitution de ce modèle, la refondation de ce modèle. Et c'est l'expérience que je tire, c'est la question que vous me posez, qui est une question extrêmement importante. On a fait des bonnes choses. La réforme de la fiscalité, l'allègement de la fiscalité sur les entreprises, la manière dont on a protégé face au Covid, la relance de l'apprentissage, la création d'emplois, la réindustrialisation que j'ai portée pendant 7 ans, qui a donné des résultats. On a ouvert des usines de batteries électriques, on a réduit les impôts de production, tout ça allait dans la bonne direction. Qu'est-ce qui a manqué? C'est une question que je me pose depuis 2 ans. Ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas transformé la structure. Et donc, si vous gardez la même structure de décision, si vous gardez des gouvernements pléthoriques, si vous gardez un État dans lequel il y a un ministre, une agence, une autorité administrative indépendante, tout le monde fait la même chose, personne ne sait qui est responsable de quoi, personne ne sait qui décide. Si vous continuez à massacrer les gens qui bossent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en leur piquant autant de fric à la fin du mois, si bien qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver, si vous continuez à avoir un pays dans lequel, lorsque vous roulez à 10 km/h au-dessus de la limite, vous êtes immédiatement sanctionné, il y a un radar et l'amende arrive tout de suite. Mais vous pouvez être un violeur et rester en liberté pendant 6 mois et vous n'êtes même pas placé en garde à vue. Ça peut pas marcher.
Et c'est ça.
Nous ne sommes pas allés à la racine du problème français, qui est un modèle obsolète.
Merci Bruno Le Maire. Un modèle obsolète, vous proposez une autre France et on peut retrouver votre manifeste donc sur votre site. Merci à vous. Il est 8h51 sur RMC BFM TV. Apolline Matin, c'est terminé. Dans un instant, les GG et nous on se retrouve demain dès 6h50 sur RMC et RMC Story. À demain.